J'arrive les amis, hop, un petit réglage sur le setup, j'en ai pour deux secondes. Est-ce que c'est là? Ouais, est-ce que c'est là? Ouais, paramètres avancés. Ouais, non c'est ça, ouais. Oui c'est ça. Top, ok super. Je crois que c'est réglé. Tchouk, paramètres avancés. Tchouk, tchouk. Quel ingénieur! Ok, je crois que c'est ok. Top. Vous allez bien? Ça va? Normalement, il y avait question pour un champion aujourd'hui. Mardi, demain, mercredi, jeudi. Puis, il y a un mouvement social qui touche une catégorie de personnes à France Télévisions. Et du coup, il y a trois jours d'enregistrement qui sautent, qui sont décalés en fait. Et du coup, bah, ça me permet de caler trois jours de revue de presse. Voilà. Et de stream. Et j'en suis content. Ça va vous? Buzz 2-3, salut, je venais juste dire merci Samuel pour ton coup de gueule que j'ai vu tourner sur les réseaux, ça fait bien un peu d'honnêteté sur Twitch. Ouais mais non, mais c'est trop, c'est too much, je suis trop... Quand je joue à Valo, je suis trop sanguin en fait. C'est pas bien en fait. C'est-à-dire que je peux exprimer une forme de colère, mais là c'était, je pense que dans la forme c'était trop. D'ailleurs, on le voit pas dans l'extrême, mais la personne s'est excusée après. Et puis après, je m'excuse moi aussi. Évidemment ça c'est pas dans le clip parce que ça fait moins de vues. Mais ouais, non, faut pas être virulent comme ça, c'est mal étienne. Ouais, mais ça c'est Valo, ça. Ça vous change un homme, hein. Ça vous change un homme. Ouais, ça va. Merci Coolman, ça va. Merci pour le 8e mois, merci Noobi One, merci Canard Cossu, merci à tous les trois. Merci pour les soutiens. Oula, allez Rouen, ok, force à toi. On dirait que quand on était à l'école et qu'il y avait grève des profs, on était content de rentrer à la maison. Nelsinho, bah moi ça me permet de streamer plus, hein, donc je suis content. Bonjour, même à la fac, je loupe pas le stream. Salut Maxime, bon cours ce matin. Non, la voix va bien, enfin, en vrai, je dois une petite tête, c'est même pas de la fatigue, tout va bien. Tout va bien. Donc trois jours de stream, ça veut dire trois jours de revue de presse, ça veut dire trois soirs de gaming. Hier, on a découvert, grâce à l'ami Lège, Civilization 6, on va rejouer ce soir. Un petit peu pour. Alors, pas jouer tous les soirs à Civ 6, parce que va devenir Valo, que va devenir GTA, etc. Mais découvrir un peu plus le jeu, je pense que c'est bien de ne pas que consacrer une seule émission à un jeu. Non, pas de stream. J'ai dit trois jours de string. Merde. J'ai vraiment dit trois jours de string. Non, c'est vraiment trois jours de stream. Hein. Enfin, après, pour le. Ça, vous ne saurez pas. Ce qui se passe en dessous de la ceinture reste en dessous de la ceinture, quoi. À quand le retour d'Elden Ring? De temps en temps, il y a un petit Elden Ring, moi. Ouais. J'ai la grippe, je vais pas en cours pendant une semaine. Force, carnage. Team manga. Mouvement social par rapport à quoi? Par rapport à la filière production, Ronweck. Ouais. Mais toi, tu vas trouver tout dans l'actualité. Hein. À chaque fois que je fais une nuit blanche, je reçois un notif de ton live matinal, je me sens comme une grosse merde de drogueuse. Ben non, c'est juste qu'on n'a pas le même rythme. Mais allez, Alexandra, tu ne me fâches jamais, Alexandra. Tu es la bienvenue, tu ne me fâches jamais. On aime bien rigoler. On n'a juste pas le même rythme, c'est tout. Ouais. Salut Lixo, bonne route. On en regarde dans des camions. Trop bien. Tu comptes refaire du Final Fantasy aussi, Andreas? Ça va, Andreas? Sam qui voudrait vraiment ajouter au moins 5 heures dans chaque journée pour avoir le plus de temps de jouer. Ouais, 5, 6, 7, 8. En fait, les journées devraient faire... 24, je sais pas moi, 30... À partir de 34 heures par jour, 34 heures par jour, en vrai, je pense que je serais à l'aise, j'arriverais à faire à peu près vaguement ce que je veux. Là, par exemple, je voulais lancer plus tôt, et puis j'ai fait un post sur une compétition e-sport féminine que j'hoste et que je casse dans quelques jours. Je me suis rendu que je m'étais gouré sur les dates, c'était un ancien visuel, heureusement, les modérateurs ont veillé au grain, et du coup, j'ai mis un petit quart d'heure à corriger ma bourdasse. Voilà. Et sachant que je vous laisse à midi ce matin parce que j'ai un Teams pour préparer un joli stream qui arrive. Counter-Strike, on va faire aussi, ouais. Bien sûr. On va parler de Trump. On va parler de Trump. Ouais. On va beaucoup parler de Trump ce matin. Hein, on va parler du Proche-Orient aussi un petit peu. Ce qui nous permettra de revenir sur l'event d'Amin. Ouais. Pas difficile d'être entre la télé et les streams, non? Ça se gère bien. Il y a beaucoup d'intelligence de part et d'autre. Personne m'embête en télé. Et Musk, il y a une dinguerie de Musk, j'ai pas vu. Je sais pas. Ouais, pas dans les journaux que je lis, peut-être sur les réseaux sociaux. Faut se méfier parfois de l'actualité vue par le prisme des réseaux sociaux. Ils mettent en avant des choses qui sont pas forcément. Qu'est-ce qu'il a fait encore, chouchou? Un salut nazi? Un salut fasciste. Ok. Ah ouais, mais ça vient de se passer, ça? Sérieux? Pendant l'investiture? Je pense que les journaux sont partis au bouclage avant que ça ne se passe, quoi. Il y a Nuno sur 24 qui me dit que ce n'est pas un salut nazi, c'est débunké par l'ensemble des médias. Ok, on va aller voir ça. Let's go. On va essayer de trouver une source un peu fiable là-dessus. Ok, let's go. Bon, bah, priorité à l'actu alors. Pas de doute, c'était bien un salut nazi. Certains vont dire qu'il est fou alors que c'est très bien ce qu'il fait, me dit Guttural. Ok, je vois qu'il y a débat. Comment il s'appelle, Trump? Non, l'autre, le milliardaire Musk. Okay. Ça, c'est son copain. Musk, je sais pas, Le Monde, par exemple. Qu'est-ce que dit Le Monde? Ok, 47 minutes. Bam. Musk se défend d'avoir effectué un salut nazi. Putain, je vous montre l'article quand même. Lors d'un meeting d'investiture de Donald Trump à Washington. Oula! Le geste effectué par le patron de X et SpaceX au cours d'un meeting à Washington a été dénoncé par certains comme un fa salut fasciste ou nazi quand d'autres y voient un geste maladroit. Prenons le temps, prenons le temps. On n'est pas sur Twitter ici. Regardons le geste déjà. Thank you. Thank you. Thank you. Donc il plaque sa main sur son cœur, c'est ça? Thank you. Et après il l'envoie clair. Ouais. Et il le fait deuxième fois. Déjà, il bouge à peu près comme moi, il danse à peu près comme moi. Il est assez maladroit avec son corps, on peut dire ça un peu. Il serait pas un peu ivre de pouvoir quand même, ce monsieur-là? Il n'y a pas que le salut qui pose problème quand même. Il est bizarre son geste. Qui fait ça? Enfin, pardon, hein. Qui fait ça? Qui fait? Je vais pas le faire moi. Mais qui fait ce? J'ai jamais vu quelqu'un faire ça, quoi. C'est quoi ce geste? Mais il envoie. Quelqu'un me dit, il envoie un cœur vers la foule. Je sais pas. Il a pas l'air. J'avais pas l'impression que. Moi, je sais pas. Je vais envoyer un cœur vers la foule. Je fais ça moi. J'ai pas le deuxième fois. Il fait comme Usain Bolt? Non, Usain Bolt, c'est pas ça du tout. La foudre, c'est comme ça n'a rien à voir. Oh non, putain. Ah non, non, non. Alors, on va débattre de savoir si c'est un salut nazi ou pas, mais Usain Bolt, ça n'a rien à voir. Bah non, les enfants. Bah non, arrêtez de dire des bêtises. Alors, lisons l'article du Monde quand même. Aux premières heures du second mandat de Donald Trump, qui a prêté serment lundi, on va en parler, nous, ce matin. Elon Musk a provoqué de nombreuses réactions en effectuant deux fois au cours d'un meeting à Washington un salut que certains ont qualifié de fasciste ou de nazi, tandis que d'autres ont défendu un geste maladroit. Okay. Durant ce meeting, où étaient rassemblés les militants républicains, il a donc remercié la foule d'avoir permis le retour de Trump à la Maison-Blanche, avant de se taper la poitrine gauche avec la main droite et de tendre le bras, geste que je ne ferai pas. Paume ouverte. Après, ça part sur Twitter, vous savez. Ah! Samuel Etienne est un nazi. Ok. Il a ensuite répété le geste en se tournant vers le reste de la foule derrière soi. Donc, il l'a fait deux fois. Donc, les réactions, bien sûr. Alors lui, il a répondu en disant quoi? Okay. L'attaque, tout le monde est Hitler est tellement dépassé, a-t-il dit. Ok. Ok. Alors, ce geste intervient dans un contexte. Parce que les gens qui me disent, ouais, c'est le geste du Saint-Bolt, ouais, c'est le salut romain. Bon, moi, je vous ai expliqué ces dernières semaines que Elon Musk, lui, il a multiplié les déclarations de soutien notamment à l'extrême droite allemande. Bon, ah oui, il y a un contexte. Ah oui, il y a un contexte. Ces dernières semaines, Elon Musk a multiplié les déclarations de soutien à l'AFD, parti allemand d'extrême droite, à la première ministre italienne d'extrême droite, hein, Giorgia Meloni, et à Reform UK, qui est un parti britannique anti-immigration. Ah bah oui, il y a un contexte. Hein. Usain Bolt, il n'a pas fait ça, par exemple. Elon Musk savait précisément ce qu'il faisait avec ce salut romain fasciste au meeting de Trump aujourd'hui. Alors oui, alors, par ailleurs, ce salut que certains qualifient de romain, c'était aussi un salut fasciste sous l'Italie de Mussolini. Bon, et je me demande d'ailleurs si c'est pas eux qui inventent entre guillemets ce geste repris par Adolf Hitler ensuite. Mais c'est le même geste. Hein, les gens qui me disent ah, c'est pas un salut nazi, c'est un salut romain. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une association de lutte contre l'antisémitisme qui s'est souvent opposée à Musk et qui a pris sa défense, moi ce que j'essaie de comprendre un petit peu quand même, il semblerait qu'Elon Musk ait fait un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme et pas un salut nazi. Voilà, il y a un débat. Les historiens évidemment débattent, divergent sur la signification d'un tel geste. Encore une fois, il y a un contexte. On parle d'un homme qui a multiplié ces derniers jours les déclarations de soutien à des partis d'extrême droite européens. Eh ben oui, c'est pas Lula le président brésilien. Hein. Eh oui, ben oui, mais c'est ça aussi. C'est pour ça qu'en fait on se pose la question. Ah bah oui, ben oui. Hein. L'historienne Claire Robin, spécialiste du nazisme aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle en pense ? A estimé que le geste d'Elon Musk était bien un Sieg Heil, le salut nazi. Bon, vous avez déjà une historienne qui nous dit c'en est un. Une autre historienne experte sur le fascisme, Ruth Ben-Ghiat, a également affirmé sur le réseau X que c'était bien un salut nazi. Ok. À l'inverse, l'historien Aaron Astor juge que ce salut ne devrait pas être considéré comme un salut nazi. Voilà pourquoi c'est un signe de la main d'un homme autiste socialement maladroit, ce qu'il est, où il dit à la foule « Mon cœur va à vous ». Ouais. Bon. Alors après... C'est pas nous qui allons, pardon, hein, même si sur les réseaux sociaux, les gens aiment exprimer des verdicts définitifs, parce que les gens savent, hein, les gens globalement savent, surtout sur les réseaux sociaux, surtout derrière des pseudos, les gens savent et affirment des choses. Moi, je ne sais pas, moi je m'interroge, je ne suis pas dans la tête de ce monsieur, mais voilà, on a un salut qui ressemble quand même à un salut nazi. Voilà. Je ne fais pas ce geste, moi personnellement, d'un homme qui a multiplié les déclarations de soutien à des partis européens d'extrême droite. Voilà, ça c'est les faits. Après, à chacun de vous faire votre intime conviction, et puis de... Comment il se défend, Chouchou, là ? Alors moi, je l'ai bloqué sur Twitter, Musk, parce qu'en fait, comme il a modifié l'algorithme pour que tout le monde puisse voir ses tweets, c'est insupportable. Donc je vais aller voir son compte. Comment il se justifie ? Donc là, il a mis son discours, 3 minutes 53. Ah bah tiens, il a mis la vidéo, lui. That's what a victory sounds like, or feels like. Je sais pas ce qu'il a dit. Ouais, j'aime le pouvoir, j'aime la victoire. Ça, par contre, c'est problématique aussi. Yes! Let's go! On va pouvoir se faire encore plus de thunes. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. This... You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know... important, some or not, but this one really matters. Say thank
for making it happen. Thank you.
Pardon, il n'envoie pas son cœur là. Il n'envoie pas, prend pas son cœur et il l'envoie là. C'est quand même, le geste est quand même très problématique.
My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. We're gonna have safe cities, finally secure borders. To have a planet. Bam! Time. Bam! Bam! Yeah. How inspiring would that be? There's a problem. They need to. Love you. Woo. You're gonna work my ass off for you. Well, for the. One of the fun that I love. So, yeah, thank you again. Thanks. Thank you guys. Thank you again. And yeah, I'm just so excited about the future. Thank you guys. Thank you.
Bon, j'ai pas vu le deuxième. Hein. C'est peut-être pas dans cet extrait. All right, d'accord. Juste après le premier. Ok. Il est juste euphorique et un peu fou, dit Don Noir. On ne sait pas, vous n'êtes pas dans sa tête, je ne suis pas dans sa tête. En fait, moi, je n'ai pas. Moi, je me pose des questions, mais je ne peux pas avoir d'avis définitif, même si c'est très à la mode d'avoir des avis définitifs. Et vous ne savez pas, vous pouvez avoir un sentiment, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a voulu faire. On n'est pas dans sa tête. Il faudrait qu'il l'avoue, quoi, qu'il le dise. Après, pardon, mais de toute façon, une fois que ceci dit qu'il est compliqué de déterminer ce qu'il a voulu faire exactement, c'est le discours du à mon avis, hein, après il y a peut-être des fans d'Elon Musk dans le chat, c'est le discours d'Elon Musk depuis des mois, des années, sur bien des sujets qui est problématique. Et on va en parler ce matin d'ailleurs. Et sa collusion avec le président Trump, hein, deux milliardaires. Un soutien, sans doute, on le sait, intéressé de Musk qui a soutenu énormément la campagne de Trump. Et le fait que lui-même rentre quelque part dans l'équipe Trump, il est toujours à ses côtés. Donc c'est ça aussi qui est, à mon avis, encore plus problématique, quoi. Voilà. Donc ça, on va en parler ce matin, c'est sûr. Ok. Est-ce que je vous fais un petit sommaire, d'ailleurs, maintenant qu'on a eu une petite entrée, un petit début sur les chapeaux de roue, là. Je vous dis ce qu'il y a dans l'actu ce matin ? Let's go. Problématique, pourquoi ? Ah bah pour ça, Transat Live, il faut écouter le live. Mais il faut écouter les lives. Mais pourquoi il est problématique, Trump ? Ah bah ça, il faut que tu écoutes 4 ans de live revue de presse de Samuel Etienne. Bah oui. Ah oui, je vais pas toutes les refaire en 5 minutes, c'est impossible. Mais tu peux écouter celle de ce matin, parce qu'on va en parler, par exemple. Mais là, on est dans le sommaire. Je peux pas te répondre tout comme ça. Et oui, on n'est pas sur Twitter, je te réponds pas en deux lignes. C'est des heures et des heures et des heures pour comprendre les choses. Merci, Onman. Merci Elé, merci Soj, merci Matt, merci pour le soutien. Sommaire ? Let's go ? Oui, Inolan, ça marche très bien, tu as écrit test, ça fonctionne. Merci Diesel, tu régales. 10 abonnements offerts à la commune. Merci. Tiens, moi, moi quand je vais envoyer un cœur au public, je fais ça. Ouais, hein, si Musk avait voulu envoyer un cœur au public, hein, c'est quand même un homme qui a un empire médiatique, c'est quand même un homme qui a un réseau, qui est propriétaire d'un réseau social, c'est un homme qui sait communiquer. Je pense que voilà, s'il veut envoyer un cœur au public, aux Républicains, il peut faire ça par exemple. Voilà. Donc moi aussi je me pose des questions, hein, sur ce geste. Merci Kogorio pour ton message. il le fait, ce geste cœur, à Tesla en public, Vincent. Donc ça veut dire qu'il sait le faire. Alors pourquoi il fait un salut qui ressemble à un salut nazi s'il sait faire le cœur ? Ha 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 ! Oui, c'est ça. Donc manifestement, il sait le faire. Donc c'est compliqué de lui trouver des excuses quand même. Hein. Voilà. Allez, allons voir ce qu'il y a dans la presse ce matin. Qu'est-ce que je vous ai mis de côté ? Donc j'ai lu les journaux ce matin, j'ai lu comme tous les matins, hein, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, Le Monde. Moi je l'ai déjà dit. Bon, évidemment je ne vous lis pas tout parce qu'on y passerait plus de 24 heures par jour. Ma petite sélection donc. Alors, on va beaucoup parler de Trump ce matin, puisqu'il y a eu la cérémonie d'investiture, des interrogations. Bilovomateus, que des journaux de merde. C'est intéressant, c'est... La question, c'est qu'est-ce que tu fais en fait qu'est-ce que tu fais sur cette chaîne en fait ? C'est toujours intéressant. Il y a vraiment des gens qui se prennent. On a l'impression qu'ils sont sur Twitter. Quoi. Oh, c'est incroyable. C'est fou ça. J'adore. Ça, je trouve ça assez fascinant en fait. Ma tablette, du coup, s'est éteinte. Hein, c'est incroyable ça. C'est fou ça. Regardez, ça y est, le commentaire a fait littéralement bugger ma tablette. Elle s'est éteinte de peur. Ouais. Elle s'est éteinte de peur, de désespoir. Non, elle n'a pas été vexée. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est dit je ne peux pas participer à ça, moi. Voilà. On a perdu la tablette, les gars. Ouais. Ah ouais. C'est foutu, là. Je vais vous remettre ça. Éteinte de désespoir, ouais. Ah ouais, ouais, incroyable. Tiens, petite tablette. Ah bah oui, non, mais tu vois, oui, ouais, t'as vu ce que t'as fait ? T'as vu ce que t'as fait ? Bah ouais. Alors, c'est dingue ça. Incroyable. Bon, je dois changer mon... J'ai acheté une nouvelle carte d'acquisition là, mais j'ai pas eu le temps d'installer ce matin. Parce que j'étais un peu à la bourre. Ah ouais, bah là, ça y est. Ah, elle est morte là. Ça c'est... Ouais. Attends, je vous la remets. Je veux juste pas paniquer. Merci pour le soutien, merci Original Pimous, merci à Motwork, merci Sissim, merci encore Diesel. Courage, petite tablette, reviens au thème, et bien sûr. Voilà. Alors, donc, beaucoup d'interrogations, notamment sur ce qui va se passer, les conséquences sur le commerce international, sur le multilatéralisme, sur le soutien ou pas à certains pays. L'Europe s'inquiète, c'est la une du Parisien, l'Europe face au défi Trump, lisons. Le vieux continent s'inquiète d'une possible hausse des droits de douane. Est-ce qu'il va y avoir une guerre commerciale ? C'est une des questions qui se posent après l'élection de Trump, la nouvelle élection. Hausse des droits de douane annoncée par le nouveau président américain lors de sa campagne. Il a pourtant de nombreux atouts. Le vieux continent, hein, l'Europe. Oh là là ! Bon, désolé chouchou. Excusez-moi, c'est la personne qui a fait bugger la tablette, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es bourré ou quoi ? Oh là là, mais en fait... Ah oui, tu reviens régulièrement pour dire qu'il ne faut pas lire ces journaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, je le laisse. Écoute, il vient à chaque fois le dire la même chose. Je vais le laisser, que je dise. On a eu ce dialogue à peu près 1 milliard de fois depuis 4 ans. Écoutez, si ça lui fait plaisir. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il a pas, il a sans doute jamais, écouté nos échanges là-dessus. Quoi. Ah, peu importe. Donc, alors déjà, on va revenir sur le discours d'investiture du président Trump avant de savoir pourquoi les Européens s'inquiètent. Trump promet un âge d'or américain. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ? Le milliardaire républicain est devenu officiellement ce lundi le 47e président des États-Unis. Il a tenu un discours d'investiture aux accents messianiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ce discours d'investiture ? Après, on verra que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, on m'a dit d'ailleurs, chez tous les politiques, il y a les discours, il y a les promesses et il y a les faits. Et encore plus chez Trump. Voilà. C'est-à-dire que c'est un. Alors, alors certains vont dire c'est un pragmatique et d'autres vont dire c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction et qui prend le vent. Donc, après, chacun voit midi à sa porte. Mais encore plus chez Trump. C'est-à-dire que son premier mandat. À montrer qu'il y avait ce qu'il déclarait, il y a ce qu'il faisait après. Quoi. Voilà, donc on verra ça. Donc la menace d'une guerre des taxes, ça c'est les inquiétudes européennes. on voit une interview de Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui estime que l'Europe doit se montrer forte vis-à-vis de Trump. Libération aime les jolies unes et les jolis titres. Voilà. Peine, non pas capitale, mais peine capitale. Bon, Libération n'est pas un journal très très fan de Trump. Dans un discours annonciateur d'une violence extrême, le président américain a promis un nouvel âge d'or à une nation, selon lui, en déclin. C'est un discours messianique. Le cauchemar recommence. Le cauchemar recommence. Les mots de Libération sont assez forts. Quoi. À Washington, tapis rouge et peur bleue. Triste spectacle au Capitole lundi où le revenant républicain, vous voyez, Libération n'est vraiment pas fan, hein, n'a pas hésité lors de son discours d'investiture à déverser sans retenue ses outrances et rancœurs contre son prédécesseur. Voilà. Alors, ce que disent certains journaux ce matin, c'est que le bilan de Biden, notamment en matière économique, est pas si mauvais. Voilà. Mais que c'est pas le sentiment d'une majorité du peuple américain. Une rhétorique casse-gueule pour une économie vigoureuse. Voilà. Tiens, regardez, je vous lis cet extrait pour vous faire comprendre un petit peu ce que veut dire Libération. Plein emploi, il y a très peu de chômage actuellement aux États-Unis. Croissance à 3%, inflation jugulée, le robuste bilan de Joe Biden en matière économique. Hein, ridiculise le désastre peint par Donald Trump. Dans certaines mesures, dont sur les droits de douane, l'immigration pourrait, à l'inverse, freiner l'activité. Elon Musk, le voici, donc article écrit avant son fameux salut, sur le pas de tir pour démanteler le gouvernement, puisque vous savez que le milliardaire s'est vu donner une mission par Trump hein, de réformer l'appareil administratif américain, suppression de postes de fonctionnaires, fermeture de ministères. Le milliardaire doit couper 30% du budget fédéral avant juillet 2026. Voilà. Alexandra Schwarzbrod, éditorialiste à Libé, parle de tout ça comme d'un cauchemar. Salut Lilian, bonne journée au lycée. Voilà. Alors est-ce que Libé exagère? Est-ce que les journaux français, tiens voilà l'Humanité, qui s'inquiètent du retour de Trump aux États-Unis, est-ce qu'ils exagèrent? Est-ce qu'ils ont raison? On va en parler. Bon, l'Humanité nous a choisi une très belle photo. Je pense qu'on peut dire que l'Humanité nous a choisi une très très belle photo de Trump. La prise du capital, vous savez que l'Humanité est un journal qui a été longtemps proche du Parti communiste, donc évidemment, le capital, ça n'est pas un mot connoté très positivement dans la bouche de l'humanité. Donald Trump était officiellement investi hier à Washington, le milliardaire d'extrême droite. Hein, pour, vous voyez, pour l'humanité, c'est extrêmement clair. Pour l'UMA, alors pour moi, c'est le seul journal national français qui parle de Trump comme un homme d'extrême droite. Le milliardaire d'extrême droite retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ah oui, en matière d'environnement, c'est pas une très bonne nouvelle quand même. Ça, pour le coup, il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est un jeu de mots, la prise du Capitole. Oui, merci, Chassandeur. Oui, effectivement. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, mais comme Libération, regarde. Ça aime les jeux de mots. Hein. Peine Capitole. Ah bah oui, oui. Ah oui, les journaux font des petits jeux de mots parfois. Surtout Libération. Voilà. Et promet un nouvel ordre planétaire guidé par une obsession. L'Amérique d'abord. America first. Trump fait déjà trembler l'économie mondiale. On lira cet article qui est ici. Voilà. Et l'éditorial de l'UMA. La promesse d'une révolution ultra-conservatrice. Vous voyez que ce matin, dans Libé, dans l'Humanité, il y a plein de pages consacrées au retour de Trump au pouvoir. Quoi. Je vous parlais des conséquences sur l'environnement. Aux antipodes de l'accord de Paris sur le climat, la ruée vers l'or noir, Trump a annoncé que son pays allait tourner le dos à nouveau. Il l'a fait déjà une première fois aux objectifs de réduction des émissions de CO2 arrêtés en 2015 à la COP 2021 de Paris. Le locataire de la Maison Blanche s'apprête à rouvrir les vannes de puits de pétrole et de gaz. Et puis il y a les conséquences sur les migrants, hein, des millions d'immigrés sous la menace. L'opération d'expulsion massive promise par Trump, il l'a promis pendant la campagne, doit débuter dès aujourd'hui. Le statut de personnes concernées, leur nombre reste inconnu. Beaucoup d'interrogations aux États-Unis de la part des migrants. La parole à un prix Nobel d'économie qui s'appelle Joseph Stiglitz, voilà, dans Le Monde cette fois, que je suis allé chercher dans Le Monde, et là vous avez un prix Nobel d'économie, un économiste qui lui est assez inquiet aussi, notamment sur le plan économique, mais pas seulement de l'arrivée de Trump au pouvoir, on lira cette ITV. J'ai cru que c'était Gérard Jugnot, oui, René Fleur de Paix, non. Gérard Jugnot, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, lors d'un petit footing, et non. De loin alors, de loin dans le noir. Voilà, Joseph Stiglitz. On parlera du Proche-Orient. Vous voyez, je suis sur des sujets assez légers en ce moment. Voilà. Après, on se demande pourquoi je passe de plus en plus de temps sur les jeux vidéo, peut-être pour me changer les idées, puisque après Trump et les déclarations à l'emporte-pièce de certains dans le chat qui savent, eux, tout, surtout, eh bien, on va parler du Proche-Orient, sujet léger. Hein, puisqu'il s'est passé plein de choses ces derniers jours, et pas seulement le stream d'Amine, avec une trêve fragile, c'est la une du monde, Israël-Gaza, une trêve fragile s'ouvre avec la libération de 3 otages. Pour ceux qui ont manqué ces actualités essentielles, 3 otages israéliens détenus par le Hamas depuis... viens par ici, toi. Par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été libérés dimanche. L'État hébreu a relâché 90 Palestiniens en échange de ces libérations. Après 471 jours de grève, de guerre, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza. L'aide humanitaire arrive en masse dans l'enclave où la population palestinienne est privée de tout. Les questions demeurent sur la durée de cette trêve dont ne voulait pas le gouvernement Netanyahou. Quelqu'un vient de dire « Merci le président Trump pour cette trêve ». Oui. Oui. Alors, on n'était pas en vue de presse ces derniers jours, mais j'ai lu plusieurs articles qui disent clairement que c'est Trump et son envoyé spécial qui, en raison de ses bonnes relations avec Netanyahou, a réussi à faire pression sur lui pour lui imposer cette trêve. Ouais, c'est vrai. Ce que Biden n'arrivait pas à faire. Oui, cette trêve, manifestement, les diplomates sont assez d'accord sur ça. Cette trêve, quelque part, elle est imposée par Trump. Oui, j'ai pas beaucoup de sympathie pour le personnage, mais oui. Comme quoi, Biden ne faisait pas beaucoup d'efforts. Biden ne voulait pas le faire. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est toujours plus compliqué. Et non, c'est plus compliqué. C'est juste que Biden, justement, et Netanyahou ne s'entendaient pas. Et donc, alors que Trump et Netanyahou sont cul et chemise. Et donc, Netanyahou a accepté de faire cet effort vis-à-vis de ce qu'il considère comme un allié, en fait, un copain, en estimant que, quelque part, Trump va lui renvoyer l'ascenseur. Vous voyez, c'est plus compliqué que ça. Mais quelque part, oui, c'est grâce à Trump. Ouais, c'est... Les choses ne sont pas si simples. C'est pas, il y en a un qui est efficace et l'autre qui est inefficace. Et puis on ira voir du côté israélien la joie après le retour des otages. Et on se penchera aussi sur ce qui se passe à Gaza, puisque c'est ce qu'on fait sur cette chaîne depuis toujours. Hein. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis parfois qualifié de sioniste. Samuel Etienne, le fameux sioniste, c'est des tweets que je lis régulièrement. Et puis régulièrement aussi, Samuel Etienne, le fameux antisémite, parce que je suis les deux. Voilà. Je suis, pour certains, un dangereux pro-palestinien et pour d'autres, un dangereux pro-israélien. Ben oui, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ben, le problème, en fait, c'est que moi, je m'intéresse aux deux camps. J'essaie de comprendre les logiques des deux camps et j'essaie de considérer que dans chaque camp, il y a des gens des hommes et des femmes de bonne volonté. Et puis, il y a des fous de guerre qui, au contraire, eux ne veulent pas de solution. Voilà. Hein. Considérer les Palestiniens comme un camp homogène avec des gens d'accord entre eux, c'est une erreur. Et c'est la même chose pour les Israéliens. Voilà. Il y a toujours eu des partisans de la paix dans les deux camps et il y a toujours eu des partisans du conflit et de la guerre. Le problème, c'est que ces derniers mois et ces dernières années, ce sont les partisans du conflit et de la guerre qui ont gagné dans les deux camps. Voilà. À Gaza, l'espoir de pouvoir vivre en paix, on se penchera également sur la situation catastrophique dans les territoires palestiniens. Mais c'est une chaîne où on dit aussi que l'État hébreu, Israël, doit pouvoir vivre en paix. Voilà, je dis les deux. Voilà. Et comme ça, je fâche les deux camps. C'est génial, j'adore ma situation. Alors c'est pour ça que de temps en temps, je joue aux jeux vidéo, c'est pour un peu parler d'autre chose. Parfois, je vais chercher des bonnes nouvelles dans l'actualité. La France championne de l'électricité bas carbone, c'est un tout petit article, mais qui aurait été bien plus. J'ai trouvé ça dans le Figaro Économie. Voilà, on a, grâce à notre singularité, notamment nucléaire, eh bien, un bilan carbone en matière de production d'électricité qui est excellent, hein, qui est un des meilleurs au monde, en fait. C'est un tout petit article, moi je pense que ça aurait valu plus, donc je vous en parlerai. Et puis, pour changer un petit peu de Trump, de Musk, du Proche-Orient, de Netanyahou, du Hamas, eh bien, on parlera aussi de ce qui s'est passé près du Soleil. C'est l'humanité qui nous en parle ce matin. La sonde Parker, j'avoue, je ne connaissais pas le sujet, a frôlé le Soleil. C'est un exploit. Pour la première fois de l'histoire, un engin fabriqué par l'homme est passé tout près du Soleil. Vous connaissiez parler, vous avez entendu parler de ça ou pas? La mission de la NASA s'est approchée à 6 millions de kilomètres de notre étoile pour étudier sa couronne, la partie extérieure de son atmosphère. Il paraît que c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Merci à l'humanité de ce dossier. Voilà. C'est pas mal, ça. Voilà. J'essaye aussi de trouver des choses intéressantes dans l'actualité, parfois des motifs d'espoir, quoi. Ah, tenez. Alors, vous, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal en janvier. Hein. Petit coup de mou en janvier. Bon, on est en février, là? Ah non, toujours en janvier. Vous voyez, j'ai du mal. Je sais pas, manque de forme, manque de pêche, le moral pas à 2000%. Voilà, et je constate qu'autour de moi, je suis pas tout seul. Voilà. Alors, du coup, je trouve un article dans La Croix ce matin. Comment garder le moral en janvier? Le lundi 20 janvier était réputé, c'était donc hier, le lundi 20 janvier est réputé pour être le jour le plus déprimant de l'année. Comment maintenir sa bonne humeur et entretenir son optimisme entre le temps maussade, je pense que la météo y est pour quelque chose, il fait gris, ça caille à Paris, c'est un enfer, voilà, et l'actualité anxiogène. Voilà. Ah, donc je trouve ça assez démuqué mille fois. C'est une fake sur Blue Monday. Ah bah moi je sais qu'en janvier j'ai le moral dans les chaussettes. Alors ça, si vous avez pleine bourre, pleine pêche en janvier, tant mieux. Mais moi janvier j'ai vraiment du mal. Ouais. Et puis, au chapitre des bonnes nouvelles, Wembanyama, à la conquête de la France, hein, le géant du basket français, c'est non parisien, est arrivé hier à Paris où il jouera deux matchs NBA avec les Spurs tout en faisant en sorte d'accroître sa notoriété auprès d'un large public. Voilà. Le géant, l'incroyable Wemby en France. Et j'ai une surprise pour vous, il est là, il est dans ce studio, là, juste à côté, il attend depuis le début de ce sommaire de passer une tête. Voilà, et il va me rejoindre. Wemby ? Ah, il est parti. Merde. Je voulais vous faire un cadeau, mais. Wemby ? Attends, je vais aller voir. Il est parti, il m'a laissé un mot, il m'a dit j'en peux plus de ton actualité morose là, avec tes polémiques, tes Musk, tes saluts, tes Trump, ton Proche-Orient là, je vais à l'entraînement. Bon, eh ben tant pis, merde. Bon, je voulais vous faire un cadeau, c'est raté. Merde, bon, bah tant pis. Putain, je pense que ça aurait pu être. Ouais, ça fait des mois que je vous prépare cette surprise. Nul. Comment ça le troll? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave, le cœur y était. Bah oui, je me décarcasse pour vous faire des surprises et voilà, voilà, voilà le résultat. Ouais, désolé, désolé, je suis confus. Bon, vous avez vu un petit peu d'actualité, quoi. Et puis la bonne nouvelle, c'est que demain et jeudi, il y aura aussi des revues de presse. Je rappelle, une des bonnes résolutions de l'année 2025, on va faire plus de revues de presse, on va faire plus d'actualité. J'ai eu tendance à un peu privilégier le gaming, le jeu vidéo, la découverte de cette culture ces derniers temps sur cette chaîne, parce que je trouve ça fascinant. Mais à la base, j'étais un peu venu sur Twitch pour vous parler d'actualité. Et certains fidèles de la commu m'ont dit « Samuel, c'est bien gentil de jouer à Valo non-stop, mais à un moment, il faut que tu nous parles d'actu. » Ah oui, mais moi j'en ai un peu marre, des polémiques, des débats sur l'actualité, à chaque fois on m'attrape le col. Ah oui, mais quand même. Bon, alors j'ai décidé d'en faire plus. Voilà. Donc voilà. De plus de revue de presse. Et j'ai même des amis streamers qui me le disent, qui me disent « Samuel, c'est bien beau. » de devenir un champion d'e-sport. Hein. Mais il faut que tu continues à parler d'actualité. Donc voilà. Tu t'es fait attaquer sur Twitter dernièrement? Ah bah oui, Ah oui, bah oui, parce que comme j'ai participé même à distance à l'événement d'Amine, l'événement caritatif, donc je suis devenu un dangereux antisémite. Voilà. Oui, bah ça c'est Twitter, on s'en fout. Allez, par contre, ce dont on se fout pas, c'est de l'actualité. Let's go. La une du Parisien, des inquiétudes en Europe face au retour de Trump au pouvoir. Donc le vieux continent s'inquiète de quoi ? D'une possible hausse des droits de douane. Est-ce qu'il va y avoir une guerre commerciale ? Une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis notamment. Guerre commerciale, hausse des droits de douane annoncée, promise par Trump pendant sa campagne. Hein ? Il a pourtant de nombreux atouts, le vieux continent. Alors moi, je vous ai mis d'abord un article sur le discours d'investiture du président Trump, voilà, où il a promis un âge d'or américain. Ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. Moi aussi, si je suis élu président de la République bientôt, là, j'annoncerai un âge d'or pour la France. J'en sais rien, mais avec un peu de chance, ça me fera élire. Le milliardaire républicain est devenu officiellement ce lundi le 47e président des États-Unis. C'est pas rien, le mec a été élu quand même deux fois président. Il a tenu un discours d'investiture aux accents messianiques. Messianique, messie, Jésus, quoi. Article du correspondant à Washington du Parisien Mehdi Bouzouina. L'âge d'or de l'Amérique débute maintenant. C'est ainsi que Trump, aux accents revanchards, débute son discours lundi au Capitole de Washington. Hein, le même Capitole qui avait été envahi par ses partisans, vous vous rappelez ? 4 ans plus tôt, ses soutiens étaient entrés de force, refusant à l'époque la défaite de leur héros contre Joe Biden, puisque Trump a toujours dit que lui n'avait jamais été battu. Face à un parterre de figures politiques et économiques, le président a promis pas moins de 100 décrets dès les premières heures de ce second mandat. Ça va charbonner. Au premier rang, ses enfants, son épouse, juste derrière le patron de Tesla, de SpaceX, Elon Musk, une place de premier choix, ok. Il y avait aussi le patron Sundar Pichai de Google, Mark Zuckerberg de Meta et Jeff Bezos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit pendant ce discours, Trump ? Il a dépeint pendant près d'une demi-heure un pays qui a perdu sa fierté, sa prospérité et sa liberté. Merci Léo du 54, merci Delawin, merci Looping Roison, merci Afro Jojo, joli. Merci Coben, merci Xubul, merci, ouais, merci à tous, merci The Original Pimous, merci Emotwork. Un pays qui a perdu sa fierté, sa prospérité, sa liberté. Le milliardaire n'a pas fait de ce temps solennel un temps d'union nationale. Parfois, on est élu président de la France ou des États-Unis, on se présente comme le président de tous les Français, de tous les Américains, faisant fi des divisions. Bon, c'est pas trop ce qu'il a fait. Au contraire, écrit le Parisien, le milliardaire fait miroiter une série de mesures controversées dès les premières heures de son retour à la Maison-Blanche. Le nouveau locataire du bureau ovale annonce une dizaine de décrets pour mettre en place une politique migratoire draconienne. En haut de la liste, la déclaration d'un état d'urgence national à la frontière avec le Mexique, le renvoi de plusieurs dizaines de millions d'immigrés clandestins, ou encore la remise en cause du droit du sol et du droit d'asile. Ok, bon. Dizaines de millions, c'est incroyable. On va voir ce qui va se passer. Ça, ouais, moi aussi j'attends des dizaines de milliers, mais c'est dizaines de millions d'immigrés clandestins. Moi aussi j'ai un peu bugué sur le chiffre, mais c'est ça, ouais. Bah ouais. Après, ça c'est les annonces. Après, en politique, on va voir ce qui va se passer réellement. Et oui. Des déclarations qui réjouissent. Bon, ça c'est les partisans, ils sont très contents. Bon, ça tu m'étonnes. Voilà. Donc Trump promet de rétablir la grandeur des États-Unis grâce à une politique expansionniste qui rappelle la conquête de l'Ouest. Le président a même fait référence à la destinée manifeste, concept messianique protestant selon lequel la nation américaine serait en mission divine pour étendre la civilisation. Magnifique. Bon, un président français ferait ça, on dirait que le mec il est complètement loco, quoi. Aux États-Unis ça passe. Première étape, le canal de Panama. Hein, Trump a dit qu'il va récupérer le canal de Panama. Voilà. Voilà. Le golfe du Mexique, il va le rebaptiser. Il va l'appeler le golfe d'Amérique. Ok. Il a aussi prévu de développer la plus grande armée du monde. C'est pas déjà le cas. Voilà. Tout en assurant être un faiseur de paix. En revanche, il n'a pas réitéré ses propos sur le Groenland. Vous savez qu'il voulait annexer le Groenland et le Canada. Voilà, ça il n'a pas répété lors de son discours. Cet esprit de frontières sans cesse repoussées, référence au père fondateur, comprend aussi la déclaration d'un état d'urgence énergétique. Cool. Donc ça veut dire que Trump va sans doute s'engager sur la voie de la lutte contre le réchauffement climatique. Non, je déconne. Avec une multiplication des forages pétroliers. Enfin, le nouveau leader du monde libre a promis de planter le drapeau américain sur Mars devant le sourire d'Elon Musk qui en a fait la mission de sa vie. Voilà. Donc là, vous avez c'est intéressant parce que vous avez un petit condensé, un petit résumé des promesses de Trump là, sur l'immigration, sur l'environnement, sur la politique internationale. Voilà. Et puis, il y a un petit encadré sur sa croisade contre le wokisme. Kesako. Ok. La bombe a été lâchée quelques minutes seulement avant la cérémonie. De futurs responsables de la Maison Blanche glissent aux journalistes américains que Trump s'apprête à signer un décret reconnaissant l'existence de seulement deux sexes. Sous couvert d'anonymat, l'un des responsables détaille le décret a pour but de défendre les femmes face à l'extrémisme idéologique du genre et à restaurer la vérité biologique au sein de l'État fédéral. En somme, l'identité sexuelle des individus serait désormais définie exclusivement par les gamètes qu'ils produisent. Donc, et quelques minutes, Trump a confirmé, quelques minutes plus tard, à compter d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis, c'est qu'il y a deux genres, hommes et femmes. Voilà. Le milliardaire n'a pas traîné, il met en pratique ce qu'il a annoncé tout au long de sa campagne, sa volonté de mettre fin à ce qu'il appelle le délire transgenre. La mesure est symbolique, depuis des mois, le magnat de l'immobilier semble parti en croisade contre le wokisme, hein, le progressisme à l'américaine, en vogue sur les campus universitaires et au cœur de certaines grandes villes. Déwokiser l'Amérique prendra aussi la forme d'un autre décret, la suppression des aides fédérales au programme soutenant la diversité dans l'administration. C'est extrêmement concret. Pendant sa campagne, Trump a également fait part de son souhait d'exclure les personnes transgenres de l'armée et des écoles. L'interdiction concernerait 15 000 militaires. Sa politique pourrait toutefois se heurter à l'épreuve du réel. Là encore, il y a les intentions, il y a les promesses, il y a les annonces, il y a ce qui va se passer. Hein ? Le titre 7 du Civil Rights Act de 64 protège les employés des discriminations, incluant celles concernant la transidentité, depuis juin 2020. Or, cette loi ne peut être uniquement modifiée par le Congrès, et Trump n'a qu'une majorité très étroite au Congrès. Donc, il y a les annonces, il y a les promesses, il y a les discours, et il y a ce qui va se passer. Et encore plus pour Trump. Voilà. C'est intéressant ce dossier du Parisien parce que ça nous donne quand même un petit peu globalement la politique souhaitée par Trump. Quoi. Voilà. Alors, inquiétude européenne face à une guerre commerciale qui arriverait à une guerre des taxes. Obsédé par le rééquilibrage de la balance commerciale des États-Unis, Trump, intronisé donc hier, a promis d'élever les droits de douane. L'Europe peut s'inquiéter, mais aussi a de quoi contrer cette politique agressive. Lisons rapidement, je ne vais pas tout vous lire. Voilà. Qu'est-ce que dit Trump ? Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, on va imposer des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens. Reidra, merci à toi. Merci la du 54. Est-ce que l'Europe doit s'inquiéter ? Est-ce que c'est le grand retour des barrières douanières ? Il est très difficile de le dire parce que Trump lui-même professe que sa méthode est d'être imprévisible. Oui, c'est ce que je vous dis. Avec Trump, c'est compliqué, en fait. Et lui-même, il l'assume, Trump, cette imprévisibilité. Il s'adapte un petit peu à la situation. C'est ce que dit Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les questions à ce stade restent très nombreuses. En fait, on est un peu dans le flou. Hein. Ça va être des taxes sur quels produits, d'abord ? Sur quel pays ? La Chine devrait être ciblée, le Mexique devrait être ciblé, le Canada devrait être ciblé. Est-ce que l'Europe va être ciblée ? À quel niveau ? On ne sait pas trop. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant, j'apprends que les pays de l'Union européenne ont un excédent commercial avec les Américains. C'est-à-dire que les Européens vendent plus aux États-Unis que les Américains vendent à l'Europe. Voilà. Et ça énerve Trump. L'Allemagne pourrait être très exposée, bah oui, c'est une grosse industrie. La France aussi a un degré moindre, on est un pays qui est moins industriel que notre voisin allemand. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous toucher en France, par exemple ? Les taxes pourraient toucher les secteurs du luxe, de l'alimentaire, cognac, vin, fromage, la pharmacie, la parapharmacie. Voilà. Que peuvent faire les dirigeants européens concernés? D'attendre un petit peu pour en savoir plus. Joli, hein. François Bayrou, tiens, le Premier ministre français, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle au ressaisissement, il dit, si nous ne faisons rien, nous allons être dominés, nous allons être écrasés, marginalisés. Alors, souvenons-nous du premier mandat de Trump, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il a fait la première fois. Ah, mais attendez, ça n'a pas changé la page, là. Oh là là, putain, désolé, ma tablette est un peu en PLS. C'est pas le, c'est la carte d'acquisition que je dois changer là. C'est pas, ça n'a pas changé de page, vous l'aviez pas vu? Hop. Ça va revenir. Incroyable ça. Elle est vraiment en fin de vie, hein. J'aurais dû la changer depuis longtemps, je suis désolé. La base d'une guerre des taxes. Reviens, petite tablette! Hop. Trip, ouais, je sais, ouais. Ça va revenir. Alors, en 2018, déjà premier mandat, en vue de répondre aux taxes actées lors du premier mandat Trump, Bruxelles avait décrété des hausses équivalentes des droits de douane sur des symboles américains, hein, sur les Harley-Davidson par exemple, hein, voilà, sur le Bourbon, hein, sur les jeans. Depuis, l'Union européenne s'est dotée d'une boîte à outils bien plus développée avec de nouveaux instruments de défense commerciale. On va réparer la tablette. Une petite tablette. Elle est morte, elle est morte. C'est pas la tablette, c'est le truc d'acquisition. Ah voilà. Faut être gentil avec elle. Donc l'Europe n'est pas. L'Europe avait déjà réagi lors du premier mandat, quoi. Voilà. Bon, la question elle est simple. Est-ce qu'il va y avoir guerre économique? Vous voyez, on est dans l'interrogation, on n'est pas dans l'incertitude parce que les mesures n'ont pas été annoncées. Voilà, donc on ne va pas non plus y passer 5 heures. On attend maintenant les annonces concrètes de Trump. Voilà. Une petite interview de Thierry Breton, l'ancien commissaire européen. L'Europe n'a aucun intérêt à se montrer faible et passive. Tiens, une question toute simple. Donald Trump de retour à la Maison Blanche, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Europe? Réponse de Thierry Breton. Je ne pose jamais ce genre de questions. Depuis l'élection de Trump, on a vu différents acteurs se réaligner sur la future administration américaine, notamment les géants de la tech, hein, qui ont fait des gestes en direction de Trump. Blablabla, tata, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Ok. Bon, c'est très diplomatique ce qu'il dit. Mais ce passage est intéressant. L'Union européenne, alliée ou adversaire pour Trump? Réponse de Breton. Comme tout un chacun, je constate que le président Trump est plus enclin à privilégier les relations bilatérales entre deux pays, d'État à État, à une approche plus institutionnelle à l'échelon européen. Dans son livre The Art of the Deal, Trump, il expliquait les clés de la négociation en tant que businessman. Qu'il s'agisse de la réciprocité des échanges commerciaux ou de son exigence envers les partenaires européens de l'OTAN à payer leur juste dû, son approche, on le sait déjà, sera similaire. Donald Trump pousse parfois le bouchon très loin pour amener ses interlocuteurs sur son terrain. Nous le savons, à nous de nous y préparer. Voilà. Il y a un rapport de force, il y a un bras de fer à mettre en place. En gros, c'est ce que nous dit l'ancien commissaire européen. Moi, j'aimerais épingler les messages les plus pertinents. Voilà. De Transat Live. Voilà, donc c'est qui est arrivé il y a très peu de temps sur cette live, sur cette chaîne, et qui se pose depuis quelques minutes déjà la question de savoir si est-ce que c'est une revue de presse ou est-ce que c'est dirigé, ou à l'instant encore, est-ce que c'est une revue de presse ou une propagande? Voilà. Donc ah, je peux même pas t'épingler, je voulais t'épingler. Je peux pas t'épingler, dommage. Parce qu'en fait, les modérateurs te considèrent comme un utilisateur suspect. Je ne peux pas épingler les messages des utilisateurs suspects. Bon, je suis désolé, je voulais te mettre un petit peu en avant, mais je ne peux pas. Bon, Libération, jeu de mots, merci Rogache. Pen, Capitole. peine capitale, peine capitale, petit jeu de mots. Dans un discours, alors Libération, il y va. Hein. Dans un discours annonciateur d'une violence extrême, le président américain a promis un nouvel âge d'or à une nation. Selon lui, en déclin, le cauchemar recommence. Vous avez vu, Libération, il va fort, quoi. Tapis rouge, peur bleue, voilà, triste spectacle, carrément, au Capitole dit Libé, où le revenant républicain n'a pas hésité, lors de son discours d'investiture, à déverser sans retenue ses outrances et rancœurs contre son prédécesseur. Alors, ok, je vais sur les passages les plus essentiels. Ça parle de ses soutiens, les milliardaires, on sait. C'est un peu l'ambiance. Ok. On est plus sur l'ambiance, au Capitole. Ok. Ah, là, il y a une analyse du discours dans l'article de droite. Regardez. La démocratie, carrément, mordue par un serpent à sonnette. Bah, la Libération, ils y vont. Hein. Donald Trump a martelé tout au long de son discours d'investiture sa volonté de mettre au plus vite en œuvre son programme que Libération estime radical. Un avant-goût des politiques violentes qui s'annoncent. Le froid polaire qui a obligé Donald Trump à prononcer lundi son discours d'investiture à l'intérieur du Capitole n'était peut-être pas une si mauvaise chose, il n'y a pas franchement eu matière à réchauffer les foules. Au cours d'une allocution terne et sans surprise de 30 minutes, ça c'est les détails, Trump a enfilé ses lubies superlatives et patriotiques, guerre culturelle incluse, comme s'il s'agissait d'un vulgaire discours de campagne. Annonçant sans jamais vraiment sourire ni mettre le ton le démarrage d'un nouvel âge d'or de l'Amérique, promettant de créer une nation fière, prospère et libre, plus grande, plus forte et plus exceptionnelle que jamais, à nouveau respectée dans le monde entier, qui ne se laissera plus abuser. Hein ? Trump a l'impression que les États-Unis sont devenus un peu une nation au rabais, quoi. Et ça, il n'est pas d'accord. Voilà. Au cours de chaque journée de l'administration Trump, je mettrai l'Amérique au premier plan, a-t-il martelé, reprenant son slogan « America first » que vous connaissez. Salut Akimatsu, bonne journée. Devant quelques rangées de milliardaires donateurs, de membres de sa famille, de son administration, le républicain avait prêté serment quelques minutes plus tôt. Il s'est dit confiant et optimiste à l'aube d'une nouvelle ère passionnée de réussite nationale. Il a répété tout le mal qu'il pensait du mandat de Joe Biden, des nombreux défis qui restaient à relever. Quitte estime Libération, analyse, à en faire des tonnes, à mentir ou à dresser un portrait caricatural de l'Amérique. Hein, Trump, il a dit qu'à partir de maintenant, le déclin de l'Amérique allait s'arrêter. Pour redresser cette nation prétendument à l'agonie, vous comprenez que Libération n'est pas tout à fait d'accord avec ça, malgré une croissance et un taux de chômage à faire rougir toutes les économies occidentales, un détail que Trump omet soigneusement dans son discours, Donald Trump s'érige en sauveur, en libérateur. Hein, le 20 janvier 2025 est le jour de la libération, dit-il. Promettant de ramener espoir, prospérité et sécurité. Voilà. Première urgence, rentrons. Serment à Sornette. J'ai lu n'importe quoi tout à l'heure. J'ai dit mordu par un serpent à sonnette. Mais ils sont tellement forts, Libération, pour les jeux de mots. Je me suis fait abuser. Heureusement que vous êtes là. Mordu par un serment à sornette. Mais c'est magnifique. Mais ils sont trop forts. Oh là là, qu'il est con, ça me les tient. Oh, ne vieillissez pas, la vieillesse est un naufrage. Ils m'ont eu. Eh oui, mais mes vieux yeux ont lu serpent à sonnette. Mais non, serment à sornette. Oh là là là. Bon, pour le coup, ils sont trop forts. Dyslexie ? Non, vieillesse. Non, ils sont trop forts, Libération. Bon, pour le coup, c'est les meilleurs. Je me suis bien fait avoir. Ils sont forts. Et là, je dis, depuis tout à l'heure dans le chat, je disais « Ah, mais relis le titre, t'as pas bien lu le titre. » Ok, bien joué. Vous êtes fort. Alors, les mesures maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors. Première urgence, verrouiller la frontière mexicaine. qu'il décrit comme le foyer de tous les problèmes, source d'une invasion de criminels, drogue, main-d'œuvre bon marché. En tant que commandant en chef, je n'ai pas de plus grande responsabilité que de défendre notre pays contre les menaces, les invasions, c'est exactement ce que je vais faire. Il ferme la frontière. Puis vient l'inventaire déjà connu de son arsenal répressif, grand coup de décret exécutif, déploiement de l'armée, expulsion de millions et millions de sans-papiers, désignation des cartels de la drogue comme groupe terroriste. Sur le plan économique, Trump a évoqué l'imposition de barrières douanières, censées faire entrer un afflux massif d'argent de notre trésorerie, en provenance de l'étranger. Le ton est martial, l'ambition démesurée. Les mots restent désespérément simples. Pas moins de 10 fois, Trump répète les expressions « ever before » ou « never before », comme jamais. Bon, Libération, j'ai l'impression que Libération n'est pas hyper enthousiaste, quand même, vis-à-vis à la fois du discours, du fond et de la forme, quoi. Salut Sam Blindmaker, ça va ? Bon. Alors, sur l'économie, Libération, alors ça c'est à vous de creuser un peu le sujet pour vous faire votre avis, Libération estime que l'économie américaine est en bonne forme. Hein. Faible inflation, taux de chômage quasiment ridicule, croissance, enfin des chiffres qu'on aimerait bien voir en Europe. Donc ça c'est ce que constate Libération et certains économistes. Et Libération estime au contraire que le retour de Trump pourrait abîmer ça. Alors que Trump lui dit exactement l'inverse. Hein, une rhétorique casse-gueule pour une économie actuellement vigoureuse. Plein emploi, croissance à 3%, inflation jugulée. Le robuste bilan de Biden ridiculise le désastre dépeint par Trump, estime Libération, dont certaines mesures sur les droits de douane et l'immigration pourraient même, à l'inverse, freiner l'activité. Merci Greg Istou. Merci pour le soutien. Quelques jours avant son intronisation, son compte sur le réseau social Truth Social, hein, c'est son réseau social, affichait surtout de jolies photos du Groenland et de nouvelles listes d'ennemis écrites en lettres capitales. Donald Trump ne dit rien en revanche sur la dernière nouvelle de l'ère Biden, avant celle du cessez-le-feu à Gaza, les 256 000 emplois créés aux États-Unis en décembre, 100 000 de plus que les prévisions des analystes. Annonce qui parachève le sans-faute historique de la job machine américaine durant les 4 années du gouvernement sortant. Le chômage est tombé à 4,1%. Vous voyez qu'on laisse Transat Live, hein, qui m'agresse depuis tout à l'heure, s'exprimer dans le chat. Après tout, moi je pense qu'il faut arrêter de bannir les gens. Hein, et voilà. Si tu veux venir sur le stream d'un streamer ou d'une streameuse pour dire pendant 3 heures ou 4 heures « Gars, tu fais de la merde » toutes les 2 minutes, après tout, moi je dis, si la personne n'a que ça à foutre, soyons plutôt tristes. Ouais, apportons peut-être même une forme de réconfort à cette personne qui, à mon avis, s'ennuie un peu. Voilà. Donc je ne pense non seulement il ne faut pas sanctionner cette personne, voilà, et la bannir, je pense même qu'il faut lui ouvrir les bras et lui dire mais qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Voilà. Donc soutien à toi, Transat Live, comme certains l'écrivent dans le chat. Je peux pas t'épingler, putain, t'es utilisateur suspect, je suis désolé. Donc l'économie américaine va plutôt bien. Explique Libération, le chômage est tombé à 4,1%, les salaires ont augmenté 3,9% en un an. Merci Tawili pour les 5 abonnements offerts à la commune, merci Arwen, merci Mister Elia, merci Vininalo. Les salaires ont augmenté 3,9% en un an, dépassant un taux d'inflation redescendu à 2,8%, le tout sans avoir jugulé une croissance annuelle qui dépasse les 3%. Voilà. Mais ce bilan dément, estime Libé, ridiculise un an de campagne de Donald Trump consacré au prétendu désastre de l'économie. Merci Nagito. Trump revient en force sous la bannière de son nationalisme économique avec une promesse de nouveau coup de boutoir contre le libre-échange, vous le savez, avec le Canada et le Mexique, menacé de 25% de droits de douane et de mesures punitives allant jusqu'à 60% contre la Chine. Les conséquences sur les prix et la consommation sont débattues calmement par les décideurs républicains, rassurés par les myriades d'exceptions que Trump, comme l'homme de son premier mandat, pourrait accorder à ses meilleurs courtisans du business. Okay, il donne plein d'exemples. Okay. Alors, voilà. Donc, la question pose Libération, pour simplifier, c'est est-ce que les mesures de rétorsion commerciale contre les Chinois, contre les Européens, contre d'autres pays ne pourraient pas déclencher une guerre commerciale qui va au final freiner l'activité économique américaine? Et puis il y a la question de l'immigration. La proposition de Trump d'expulser un nombre massif d'immigrants présente des risques économiques. Qui dit ça? C'est un économiste qui s'appelle Michael Levy. Car les immigrants occupent des emplois, gagnent des salaires, les dépenses contribuent positivement à l'économie et à l'augmentation de la productivité américaine. Selon lui, ces expositions ne seront probablement ni massives ni si néfastes à l'économie que redoutée, car la rhétorique de campagne va se heurter à des réalités difficiles. Il faudrait le rappeler avec ménagement à Donald Trump. Il y a les promesses, il y a la campagne, il y a ce qui va se passer réellement. C'est ce que dit Libération. Alors, pour finir sur ce dossier de Libération, qui est un dossier à charge, clairement, Libération n'aime pas Trump, quoi. Bon, ça, c'est pas une grande surprise. On a un éditorial d'Alexandra Schwarzbrod en haut à droite qui est carrément titré Cauchemar, cauchemar. On va lire cet édito. Il y avait quelque chose de vertigineux à voir défiler lundi au Capitole tous ces hommes, beaucoup d'hommes en effet, blancs, d'âge mûr, acquis pour la plupart à Trump, et bien décidés à refaçonner au plus vite les États-Unis et le reste du monde à leurs mains selon leurs fantasmes ou leurs obsessions. A fortiori, là, dans ce Capitole pris d'assaut, il y a 4 ans par les partisans de celui qui refusait alors obstinément sa défaite, ruminant déjà sa vengeance et son retour, croyant fermement à ce jour où il prêterait un nouveau serment, jurant de protéger une constitution qu'il n'avait pourtant pas hésité, lui, à fouler de ses pieds. Il a gagné son pari, il l'a fait savoir lundi, réglant ses comptes, insultant son prédécesseur en direct devant les caméras du monde entier, dénonçant l'instrumentalisation du ministère de la Justice, annonçant la fin du déclin américain, alors pourtant que la santé de l'économie américaine a rarement été aussi bonne. Merci Vincent Sixième pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci Francis Oco, merci Serge, mon ami. Alors que la santé de l'économie américaine a rarement été aussi bonne, et son intention de repousser l'horrible invasion du pays, et on en passe, et des moins pires. Nous étions nombreux devant notre écran à avoir la sensation d'être bloqués dans une boucle temporelle, cherchant désespérément le bouton qui nous permettrait de mettre fin au cauchemar. Et à moins que toutes ces ambitions au sommet s'entrechoquent et finissent par s'annuler, nous n'en sommes qu'au début. Depuis de nombreuses semaines, notre correspondant et nos envoyés spéciaux racontent les États-Unis et l'emprise Trump en construction, oui. Une véritable entreprise avec ses actionnaires, ses chefs de département, ses commerciaux, mus essentiellement par des objectifs financiers et un besoin d'asseoir à n'importe quel prix la puissance américaine sur le monde. Face à ce triste spectacle, les Européens déjà affaiblis politiquement semblent comme figés d'effroi et d'impuissance dans la lumière des phares, comme un lapin quoi. S'ils veulent résister au séisme qui s'annonce, ils n'ont d'autre choix que de faire preuve de sang-froid, d'intelligence et surtout d'unité. Des inquiétudes, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Ouh là là, putain, ça fait peur. L'Humanité, qui n'est pas un journal qui aime beaucoup Trump non plus, nous a choisi une des plus belles photos, je pense, que le journal a trouvée. Mon de Dieu, là, ils l'ont. Oh, c'est chaud quand même. Eh hey, franchement. Hein. Ah putain, même la tablette, elle a eu peur. Attends, reviens, petite tablette. C'est juste une photo. Oh là 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 là. Comment il s'appelle le gros truc dans Star Wars? C'est Jabba. C'est pas Jabba the Hutt? Voilà, franchement, là. On a l'impression qu'il va manger quelqu'un, quand même. C'est Jabba. C'est ça. La prise du Capitole, jeu de mots. Quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure. Hein. Donald Trump était donc officiellement investi hier. Le milliardaire d'extrême droite, alors là, l'Humanité dit carrément milliardaire d'extrême droite, retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ouais, il n'est pas trop environnement chouchou. Et promet un nouvel ordre planétaire guidé par une obsession America First. Voilà, bon, là, on retrouve un petit peu les mêmes idées que dans Libération. Trump fait déjà trembler l'économie mondiale. Ok. Bon, je pense qu'on est sur la même ligne éditoriale. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que l'Humanité consacre plusieurs pages à ça. Ah, si ! Ce qui m'intéressait dans l'Huma, c'est l'aspect environnemental qui n'était pas tellement développé dans Libération. Ah. Aux antipodes de l'accord de Paris sur le climat, la ruée vers l'or noir. Le 47e président des États-Unis a annoncé que son pays allait tourner le dos de nouveau, parce qu'il l'avait déjà fait lors de son premier mandat, aux objectifs de réduction des émissions de CO2. Arrêté en 2015, vous savez, à la COP21 de Paris. Le locataire de la Maison-Blanche s'apprête à rouvrir les vannes des puits de pétrole et de gaz. Il récidive, écrit Dumas. Lors de son discours d'investiture au Capitole, Trump a annoncé le retrait de Washington de l'accord sur le climat de 2015, lors de la COP21 à Paris, Parmi les décrets qu'il a annoncé vouloir signer très vite, le locataire de la Maison-Blanche prévoit d'autoriser de nouvelles exploitations pétro-gazières aux États-Unis. Cette fièvre extractiviste fait peser de lourds dangers sur les zones protégées. Nous avons besoin du double d'énergie que nous avons déjà et cela va finir par être plus que ça, a-t-il claironné. La relance des énergies fossiles n'est ni un vœu pieux ni un simple sabordage de la politique de son prédécesseur. Elle est bel et bien la pierre angulaire du projet économique de Trump. Et après, l'humanité développe un petit peu tout ça. On verra que la France, par contre, tout à l'heure, est parmi les États du monde qui a une production d'énergie les plus vertueuses sur le plan du CO2, un truc dont on peut se féliciter quand même. Il y a un article dans Les Échos, je crois, là-dessus, ou dans Le Figaro, je ne sais plus. Voilà. Bon, après, il y a un truc sur la crypto-monnaie qui a été lancé par Trump aussi. Il y a tellement de choses. Quelle heure il est ? 10h30. Ouais. Je regarde. Il y a pas mal de choses aussi. Bon, je la fais rapide, mais les médias s'interrogent sur les deux crypto-monnaies qui ont été lancées par Trump et son épouse. Hein ? Voilà. Je vous la lis plus vite. C'est la blague la plus rémunératrice jamais vue. Le nouveau président des États-Unis et son épouse ont lancé chacun un meme coin, un crypto-actif, normalement à visée humoristique, qui n'a d'autre but que de les soutenir. On peut en acheter via des plateformes de change, même directement sur le site du président milliardaire avec une carte bancaire. Voilà. Le pire, c'est que cela marche. Les dollars Trump s'échangeaient ce lundi à $60 pour 12 milliards d'encours, quand les dollars Melania vendus s'approchaient des 2 milliards. Voilà. La première journée, en une journée, le profit net pour Trump aurait dépassé les $500 millions. Il est fort. Il est très fort. Il y a des gens qui achètent ça. Et il détenait encore 80% des jetons émis. Virtuellement et au cours de ce lundi, le patrimoine financier de Trump a gonflé de près de $60 milliards en crypto-actifs. Légalement, ce que vient de faire Trump pose question, est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que c'est un délit d'initié ? Un énorme conflit d'intérêts en tout cas, écrit Luma, d'autant qu'avec ses fils, le président lance également une plateforme de vente et de change de crypto-monnaies. Les Trump investissent donc un secteur ultra spéculatif dont ils contrôlent la régulation, puisqu'il est au pouvoir. D'où la question du conflit d'intérêts. Donald Trump avait déjà financé une partie de sa campagne avec ce type de meme coin. Le MAGA avait atteint plusieurs centaines de millions de dollars de capitalisation, tandis qu'il avait vendu des NFT à son effigie pour $4 millions. Il vend aussi ses propres produits dérivés, casquettes, t-shirts, bibles dédicacées, okay. Montres, mais il s'est aperçu qu'il pouvait aussi vendre du rien, de la monnaie de singe, à bien davantage d'acheteurs. Il est très fort. Il est très fort. Incroyable. Ça va se casser la gueule aussi vite que c'est monté. Sans doute, mais peut-être qu'il va garder un petit bénéfice quand même. Il est fort ou les gens sont bêtes ? Ah, Nashki, je te laisse la réponse à cette question. Merci Drakeos. Oui, les bibles dédicacées, Vex, j'avoue que j'ai été surpris. Ouais. La classe d'avoir une bible dédicacée par Trump. Ouais, ça, j'étais pas prêt. Les bibles dédicacées en vente sur son site, j'étais pas prêt. J'avoue, ça m'a surpris. Voilà. Alors, qu'est-ce que pense un prix Nobel d'économie de tout ça ? Face à Trump, l'Europe doit riposter. J'ai eu l'impression que cette interview de Joseph Stiglitz, qui a un prix Nobel d'économie, est plutôt intéressante. Voilà. Et lui, il alerte sur les mesures annoncées en matière économique par Trump. Alors, le début est très intéressant, regardez. Donald Trump demande le monde, entame son second mandat aux États-Unis. Que redoutez-vous ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Écoutez la réponse du prix Nobel de l'économie. Rien n'est écrit, car l'une des caractéristiques de Donald Trump est son imprévisibilité. Il existe un écart énorme entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors c'est vrai pour les politiques en général, mais c'est encore plus vrai pour Trump. Il suffit de voir son premier mandat. Il y a en outre deux grandes incertitudes. La première concerne les élus républicains au Congrès. Est-ce qu'ils feront exactement ce que Trump attend d'eux ? La seconde porte sur la force de nos tribunaux, des autres institutions et de la fonction publique et leur capacité à faire respecter l'état de droit. Hein, c'est pas une dictature. Trump ne fait pas ce qu'il veut. Il faudra des votes au Congrès. Il faut voir comment vont se comporter aussi les contre-pouvoirs. Voilà. Il est donc difficile aujourd'hui de prédire les actions à venir de Washington. Ça me semble très très juste. De ce fait, l'équilibre global a déjà changé. L'Europe, par exemple, ne peut plus compter sur les États-Unis. Elle doit donc changer de comportement pour commencer. Elle doit se doter de sa propre défense. Craignez-vous une guerre commerciale généralisée ? Hein ? C'est la question que posaient beaucoup d'articles ce matin. Avec une spirale de représailles comme dans les années 30. Je n'y crois pas tellement, dit ce prix Nobel d'économie, car les économies sont beaucoup plus interdépendantes qu'à l'époque du fait de l'intégration des chaînes de valeur, les droits de douane frapperaient aussi les industries américaines. Alors ça, c'est très intéressant. Prenez une voiture allemande, fabriquée et vendue aux États-Unis, une Mercedes par exemple. Si vous mettez des taxes sur l'importation des pièces détachées nécessaires à sa production, les chaînes de montage aux États-Unis vont être touchées. Ah bah oui. Et ça représente de nombreux travailleurs. De même, si vous imposez un droit de douane très élevé sur des vêtements importés de Chine, la chaîne de distribution américaine Walmart en subira le contre-coup. Or, celle-ci pèse lourd dans l'économie du pays, notamment en termes d'emploi. La politique protectionniste qu'annonce Trump est beaucoup plus difficile à mener qu'il le pense, estime l'économiste. Les Américains susceptibles d'être pénalisés par de telles politiques ont pourtant, pour une majorité d'entre eux, soutenu Trump. Pourquoi ont-ils, demande le monde, voté contre leurs intérêts, ses électeurs ? Alors l'économiste dit que c'est difficile à comprendre, pour un économiste en tout cas, car les indicateurs dessinent plutôt un bon bilan de l'administration de Joe Biden et Kamala Harris. L'inflation est faible, le taux de chômage est bas. Dans les anciens modèles politiques, Kamala Harris aurait gagné cette élection. Seulement voilà, les perceptions peuvent différer de la réalité. Joe Biden a fait du bon travail pour réduire l'inflation, mais ce que les électeurs ont en tête, c'est le niveau des prix plus élevé qu'en 2019. De même, ils se souviennent de l'époque où le prix de l'essence s'est envolé, mais ils ont ensuite oublié que ce prix avait baissé. En outre, beaucoup d'Américains souffrent. Le niveau d'insécurité alimentaire est élevé, ils se soignent mal. Cela tient à la difficulté de contrer les monopoles présents dans tous les aspects de la vie américaine, compagnies aériennes, assurance santé, Internet, téléphone. Ces monopoles ont des comportements prédateurs, ils font payer cher leurs services et quand vous les appelez, vous tombez sur des robots. La part de leurs bénéfices dans la valeur ajoutée du pays augmente tandis que celle des travailleurs diminue. Joe Biden a tenté d'agir pour limiter leur pouvoir, mais l'arrivée de Trump va remettre en cause ses efforts. Les électeurs n'ont pas compris que le programme de Trump, lui-même milliardaire, est pro-monopole et pro-inégalité, car il sait bien, très bien, se présenter comme un contestataire. Ajoutons que le vote en sa faveur est lié à des questions identitaires, plus qu'économiques peut-être, le rejet de l'immigration ou la peur des hommes blancs de perdre leur statut. Voyez la guerre qui est menée contre la diversité pour de nombreux hommes, les étrangers et les femmes viennent prendre leur emploi. Et les femmes sont désormais davantage diplômées, ce qu'ils vivent comme une menace. Bon, vous lirez l'article si ça vous intéresse, c'est à lire dans Le Monde, c'est page 15. Ouais. Vu ce qu'il dit, je pronostique que c'est un article du Monde. Bien vu en vrai. Comme je l'ai annoncé au début de la lecture, et puis je crois que c'est écrit un petit peu partout sur la page, j'ai envie de te féliciter. Je suis content que dans ce chat, il n'y ait pas que des personnes atteintes de cécité. Je me félicite de votre bonne vue. D'autres commentaires ? Merci Founti pour le soutien. Merci Drakios pour le Prime. Joli pré-shot. Alors, on reste avec Le Monde. Ah ! Alors ! Donc là, on s'est régalé avec Trump, voilà. Et puis on va sur un autre sujet très léger, Le Proche-Orient. C'est drôle parce que donc j'ai été accusé par des gens sur les réseaux sociaux ces derniers jours d'être un dangereux antisémite, puisque j'avais soutenu l'event d'Amin. Et certains, voilà, interpellant mon employeur, France Télévisions, pour que France Télévisions prenne des sanctions et me licencie. Voilà. Certains expliquant notamment que je ne parlais que je ne parlais jamais du sujet dans la revue de presse. Vous savez effectivement, je ne parle jamais du Proche-Orient de ma revue de presse. Comme là, par exemple. Donc, il s'est passé plus sérieusement pas mal de choses importantes dans la région ces derniers jours, et le Monde en parle. C'est même la une du Monde. Voilà. Israël-Gaza, une trêve fragile s'ouvre avec la libération de 3 otages. On a pas mal d'infos dans ce dossier et on va prendre le temps, au-delà des polémiques, de comprendre ce qui vient de se passer. 3 otages israéliens détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été libérés dimanche. L'État hébreu a relâché 90 Palestiniens en échange de ces libérations. Après 471 jours de guerre, un accord de cessez-le-feu, vous le savez peut-être, est entré en vigueur à Gaza. L'aide humanitaire arrive en masse dans l'enclave où la population palestinienne est privée de tout. Voilà. Les questions demeurent contre la durée de cette trêve, dont ne voulait pas le gouvernement Netanyahou, mais vous le savez, c'est un peu Trump qui a réussi à imposer ça à Netanyahou. Voilà. La joie d'abord en Israël, voilà, après la libération des 3 otages, Doron Steinbrecher, Romy Gonen et Émilie Damari ont retrouvé leur pays après 471 jours de captivité dans la bande de Gaza. Parce que nous, sur cette chaîne, on se désole des attentats terroristes contre les Israéliens, on se désole de la guerre menée par l'armée israélienne contre des civils palestiniens, et on regrette les exactions des deux camps. Et on n'estime pas qu'il y a un camp qui a le monopole du mal ou du bien. Et c'est pour ça que du coup que j'arrive à fâcher tout le monde. Une immense clameur, des embrassades, des flots de larmes, c'est avec une intense émotion que des milliers de personnes réunies sur la place dite des otages au centre de Tel Aviv ont accueilli les différentes étapes de la libération des 3 premières captives rendues par le Hamas dimanche 19 janvier. Les jeunes femmes, dont le nom avait été rendu public plus tôt dans la journée, sont arrivées en Israël en fin d'après-midi dans le cadre de l'accord conclu entre Israël et le Hamas le 15 janvier. Donc ces 3 femmes, 3 jeunes femmes, hein, 31 ans, 24 ans et 28 ans, ont retrouvé leur pays, leurs proches, au terme d'une interminable captivité de 471 jours. Elles avaient été enlevées le 7 octobre, bien sûr, par le Hamas. Elles devraient être rejointes, et je croise les doigts, durant les 6 prochaines semaines, par 30 des otages libérables au cours de la phase initiale de l'accord, cet accord qui compte 3 phases. Merci Pérignos. Merci Michaïk. Merci Spidiad. Donc là, il y a la réaction et la joie de nombreux Israéliens, bien sûr. Sur la place des otages, c'est le soulagement exprimé dans un concert d'applaudissements, de cris d'allégresse. On assiste à un grand miracle, dit une ressortissante belgo-israélienne. Dalit, les yeux remplis de larmes, j'ai l'impression d'exploser de joie, lâche cette mère de 54 ans. Évidemment, les gens se demandent ce que ces femmes ont vécu pendant tous ces jours, quoi. La prochaine libération d'otages devra avoir lieu samedi prochain. Alors, vous savez qu'il y a une trêve hein, qui a été signée. À Gaza, là aussi, l'espoir de pouvoir vivre en paix. Après 471 jours de guerre, l'enclave palestinienne retrouve le calme et reçoit enfin de l'aide humanitaire. À peine la trêve entrée en vigueur, le soulagement et la joie se répandent à travers tout le territoire martyrisé. Les journalistes palestiniens ôtent en direct leurs casques et leurs gilets, se mettent des keffiyehs autour du cou et reprennent sourire aux lèvres leurs interventions. Selon Reporters sans frontières, 145 journalistes ont été tués par l'armée israélienne à Gaza entre octobre 2023 et décembre 2024. Les journalistes étrangers sont toujours interdits d'accès par les autorités israéliennes. Les secouristes, le Croissant-Rouge palestinien et la Défense civile défilent à bord de leur véhicule, acclamés par la foule qui sort peu à peu dans les rues. Eux aussi, inlassablement, ont effectué leur travail dans des pires conditions, collectant morts et blessés, alors que leur territoire se décomposait sous leurs yeux. La trêve prévoit quoi ? L'arrivée massive d'une aide humanitaire rationnée tout au long de cette guerre, l'équivalent de 600 camions par jour, de quoi venir en aide à une population en malnutrition chronique. Près de 4000 camions de l'UNRWA, l'Agence d'aide aux réfugiés palestiniens, sont prêts à entrer. La moitié contenant de la farine et de la nourriture. En tout dimanche, l'équivalent de plus de 630 camions d'aide humanitaire est entré, dont 300 sont parvenus dans le nord de la bande de Gaza. La trêve confirmée, les membres du Hamas apparaissent aussi. Par dizaines, par groupes de dizaines, partout dans Gaza, la plupart arborent les bandeaux verts des brigades Esdin al-Qassam, la branche armée du Hamas. Certains portent leur treillis, estampillés unité Nukba, fer de lance du massacre du 7 octobre. Mise en scène soignée, attendue, le mouvement islamiste palestinien veut montrer qu'après l'une des guerres les plus meurtrières du 21e siècle, malgré ses quelques 18 000 combattants tués, il est toujours debout. Pourtant, militairement, le mouvement n'est plus que l'ombre de la menace qu'il représentait à la veille de l'attaque. Mais il reste quand même la principale force de la bande de Gaza. Considérablement affaibli, il n'est pas encore abattu, il a pu recruter au moins autant de combattants qu'il a perdu, affirme Washington. Khaled Kadoura, infirmier à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza avant la guerre, espère un avenir sans le Hamas. C'est ce que je vous dis souvent. Ne confondons pas les Palestiniens avec le Hamas. Ne confondons pas les Israéliens avec le gouvernement Netanyahou. C'est bien plus compliqué que ça. Que dit cet infirmier ? On n'en veut plus du Hamas. Il faut que la faction arrête cette résistance qui nous apporte que des ravages. À présent, nous pouvons enfin enterrer nos proches, reconstruire, enseigner, reprendre notre chemin. Dieu nous a créés pour vivre, pas seulement pour mourir, dit le soignant. Je lis pas tout, hein, je lis que quelques petits passages. Alors que les Israéliens fêtent le retour des leurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, les Gazaouis s'apprêtent à passer leur première nuit de calme depuis 15 mois, espérant une trêve durable. Rappelons que Netanyahou n'était pas pour cette trêve, là, le chef du gouvernement israélien, mais qu'elle lui a été en quelque sorte imposée par Trump. Voilà. Il faut lui reconnaître ça. Trump étant un soutien affirmé, assumé de Netanyahou, il a réussi à imposer ça à son allié en lui laissant entendre qu'il lui renverrait l'ascenseur. Quoi. Je vous lis sur ce sujet ô combien compliqué qui doit faire appel à la plus grande intelligence de chacun. Les familles des otages eux-mêmes protestent contre Israël qui les a délaissés. Oui, les familles des otages sont extrêmement en colère contre le gouvernement israélien. Oui, c'est un fait. D'ailleurs, si on a le temps, peut-être qu'on peut aller voir s'il y a des articles. Moi, dans la presse de ce matin, j'ai lu le Parisien hier, j'ai pas lu tous les journaux parce que hier j'étais à Question pour un champion, mais je n'ai pas vu d'article dans la presse papier, hein, la presse que je télécharge le matin, sur l'event d'Amin. Et voilà. Mais je sais que sur les sites internet de ces médias que je consulte, il y a eu des articles. Donc, si vous voulez, on peut prendre quelques minutes pour aller voir peut-être les articles les plus intéressants, les plus complets, les plus pertinents sur ça. Voilà. Donc, on va voir. Merci Zetia, merci Mikaïk, merci Perignos. Ouais. Voir d'abord si les médias en ont parlé. Amine. Je vais taper Amine, hein, ça devrait aller. Hein. Voilà, regardez. Bon, là, je tape Amine Google Actu. Article dans Sud-Ouest, dans l'équipe, dans RMC Sport, dans Ouest France, dans le Parisien. Okay. On va faire un crible tri par date. Plutôt par pertinence. Ok. Bah, on est en train de lire Le Monde. Est-ce que Le Monde en parle, par exemple ? Je vois pas beaucoup d'articles, quand même. Hein. J'ai pas l'impression. Attendez. Ou alors Stream for Humanity, alors. C'est quand même étonnant, non ? Ah, quand même. Oui, Le Monde. Stream for Humanity réunit plus de 3,4 millions d'euros au profit de Médecins Sans Frontières. Ce marathon caritatif, organisé durant 3 jours sur la plateforme Twitch, a réuni des stars de YouTube, comme Squeezie ou InoxTag. Les dons doivent permettre d'aider les victimes de conflits armés, notamment en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban. C'est pas vraiment un article du Monde, regardez. Le Monde avec AFP, c'est quoi ? C'est une dépêche de l'agence France Presse qui a été reprise par Le Monde et retravaillée un petit peu. Mais ça veut dire que Le Monde n'a pas vraiment fait un article là-dessus. Avec plus de 26 streamers réunis pour la paix, la première édition de cette collecte de fonds a réuni sur la plateforme de diffusion en direct de grands noms du web français comme Squeezie, deuxième youtubeur de France, et InoxTag. L'objectif était de venir en aide aux familles victimes des conflits armés. Rappelons, hein, pour ceux qui certains sur les réseaux sociaux ont dénoncé cet événement, rappelons que l'objectif était de venir en aide aux familles victimes des conflits armés avec un soutien particulier affiché à la Palestine, au Congo, République démocratique du Congo pour être tout à fait précis, merci Ragnar Leroy, au Soudan et au Liban. Ragnar Leroy me dit l'impression que l'event n'a pas eu la couverture médiatique à sa hauteur. Oui, je suis d'accord avec toi. Lancé par le streamer Amine, l'événement avait pris ses quartiers au stade Jean Bouin à Paris. Les personnalités du web se sont lancées des défis, ont fait appel à la générosité de leurs abonnés. Ce marathon caritatif s'est conclu par un match de football. Le match était fou, le match était incroyable. C'est moi qui connais un petit peu comment tout ça est fabriqué, c'est vraiment service minimum. On parle d'une dépêche d'agence qui n'est pas très longue, hein, quelques lignes, reprise par Le Monde. C'est pas fou. Voilà. Effectivement, je trouve que la couverture médiatique n'est pas top. Est-ce que Libération en a parlé ? C'était pareil pour le dernier Z-Event. Oui, vous avez raison. J'ai pas l'impression. Figaro ? Le Figaro. Stream for Humanity, plus de 3 millions d'euros de dons récoltés par le marathon caritatif en ligne. Par le Figaro avec AFP, regardez, c'est pareil. C'est la même dépêche d'agence, Agence France Presse, reprise par le Figaro. C'est pas un article, c'est une reprise d'une agence. Ouais. Et vous avez raison avec, certains l'ont souligné, plutôt Inox, Squeezie mis en avant, et pas Amine. Je suis d'accord, ça pose problème quand même. Pas l'organisateur. Ouais. Mais là, en même temps, c'est parce que la dépêche d'agence a été écrite comme ça. Ouais. Là, l'article est encore plus court. Bon, si on oublie l'agence, est-ce qu'il y a des articles un peu plus complets? Sud-Ouest, par exemple. Ah, déjà, Sud-Ouest. Streaming for Humanity, le marathon caritatif en ligne avec Amine, Squeezie et Inoxtag a récolté 3,4 millions. Donc Amine est cité tout de suite, quoi. Bon, c'est un site très très. Non, il y a 26 streamers, papapap, ok. Amine, c'est écrit avec qui ça? Avec AFP, oui, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc c'est toujours la même dépêche qui sert en fait à écrire l'article. Donc on voit bien en fait que les journaux d'eux-mêmes n'ont pas écrit grand-chose, quoi. Voilà. Qu'on voyait avec AFP, c'est que le journaliste, c'est pas déplacé sur place, ça n'a pas fait des recherches, ça n'a pas passé des coups de fil, il a juste repris l'agence, quoi. Ça n'a pas beaucoup bossé, quoi. Ça n'a pas beaucoup bossé. Voilà. Bon, l'équipe se penche sur le match de foot, ce qui est à peu près normal. Voilà. Est-ce que Ouest France? Ouais, on a fait un peu plus. Là, c'est pas marqué avec l'AFP. Amine est là. Amine est cité tout de suite. D'accord, ok. Ça, c'est un article en ligne. On voit parce qu'ils mettent ils mettent des tweets, tout ça. C'est un article assez complet. Voilà. Mais pendant le déroulement. C'était pendant l'événement, tout à fait cactus. Voilà. Là, on a un article dans le Huffington Post, qui est un média uniquement en ligne, voilà, qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur Internet et sur Twitch, le Huff Post. Voilà. La très belle photo d'Amine avec le drapeau français ici. Voilà. Avec l'AFP. Voilà. On est toujours la même chose. Un tout petit article. En fait, on est d'accord. Voilà. C'était mon sentiment, mais on le constate, nous, ici, ensemble. Bon, la couverture médiatique de cet événement ne me semble pas à la hauteur. Vous avez des centaines de milliers de personnes, je parle des viewers, qui se mobilisent, qui donnent de leur temps, qui donnent de l'argent pour un événement caritatif. Qui se passe très bien en plus, où il n'y a pas de débordement, où il n'y a pas de dinguerie, c'est quand même un bel exemple de ce qu'une partie de la jeunesse française, créateurs de contenu et viewers, peut faire ensemble. Hein, et on n'en parle pas beaucoup, quoi. C'est un peu décevant, quoi. Après, ces mêmes médias disent, ah là là, mais on ne comprend pas. Les jeunes ne lisent plus les journaux, n'écoutent pas la radio, ne regardent pas la télé. Bah, tu m'étonnes. Hey, à un moment, il faut aussi s'intéresser. Enfin, voilà, il y a une vraie fracture là. Il y a un truc qui ne va pas. Merci, Objectif Trap. Ah oui. Comment ça se fait? Les jeunes ne nous consomment plus. Ils sont que sur Internet. Ils s'informent sur Internet. Ils se divertissent sur Internet. Bah ouais. On en a parlé du salut tout à l'heure d'Elon Musk, Christo Balduc, c'est en replay au début de. Je suis étonné? Non, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que les médias ne cessent de s'interroger sur comment renouer le lien avec les plus jeunes et ils se posent sans arrêt la question. Bon, bah là, je sais pas. Je suis pas surpris, non, mais un peu déçu, ouais. Alors, Wintrad a raison. C'est désolant, mais en même temps, je me dis qu'on n'a plus besoin de le relais médiatique. Cet événement se suffisait à lui-même. C'est vrai. Les streamers, les streameuses, les créateurs de contenu français, en fait, ils se dirigent très très peu vers les médias traditionnels parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ces médias pour exister, pour se développer. Voilà. Quand Amine et les autres veulent faire connaître leur initiative ou ce qu'ils font, ils le disent sur leur réseau, sur leur chaîne, et ils vont pas le dire à une radio, à une télé ou à un journal. Ils n'en ont pas besoin parce qu'ils savent de toute façon que ces médias ne sont pas consommés par leur public. Donc, ils n'ont surtout pas confiance. Non, c'est même pas qu'ils ont de confiance. En fait, ils savent que ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, régulièrement, j'ai des émissions de télé qui m'appellent en me disant, ah, on n'arrive pas à joindre machin, on n'arrive pas tel streamer, telle streameuse, ils répondent pas. Et moi, parfois, je leur explique gentiment, Mais en fait, ils n'ont pas besoin de vous, quoi. Ils n'ont pas besoin de vous pour communiquer. Et ils n'ont pas besoin de vous tout court. Voilà. Vous avez besoin d'eux, par contre. Hein, pour vous reconnecter, pour comprendre ce qui se passe, pour créer des liens. Oui, mais eux, ils n'ont pas besoin de vous. C'est pour ça qu'ils ne vous répondent pas, en vrai. Vous voyez souvent des interviews de créateurs de contenu, nos streamers préférés dans la presse. Très peu. Et alors qu'il y a des journalistes qui essayent d'en faire. Mais en fait, les créateurs de contenu, la plupart du temps, ne répondent pas. C'est dans les deux sens. Parce qu'en fait, ils sont tapent le coquillard. Parce qu'ils savent que ça ne va rien leur donner. De parler à un public qui, de toute façon, ne consomme pas forcément Twitch, quoi. Voilà. Donc ça tourne un peu en rond, quoi. Donc il y a un peu deux mondes qui se regardent, qui s'ignorent un peu. Pas forcément qui se détestent, d'ailleurs. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, quoi. Voilà. Voilà. Peut-être que ça va évoluer, d'ailleurs, soyons un petit peu optimistes, mais ça n'évolue pas beaucoup. Bon, voilà, c'est un des enseignements qu'on peut tirer de ce week-end. Quoi. Je vous lis un petit peu sur ce sujet, et puis on enchaîne. On va parler d'une bonne nouvelle concernant l'environnement en France, pour une fois. Ouais, on a parlé du salut d'Elon Musk achat au début du stream, assez longtemps, ouais. Zerator disait qu'il ne répondait qu'à ceux qui s'intéressaient aux Z-Event avant et pas pendant ni après. Ouais, ah oui, je peux comprendre. Non, c'est vrai, Zouf, as-tu communiqué ton bilan du week-end sub plus don de ta chaîne pour le stream For Humanity? Non, je sais. Alors, non. Alors, Zouf, oui. Alors, je ne sais pas à combien ma cagnotte s'est élevée. Les modérateurs vont me le dire parce qu'eux, ils savent où aller. Moi, je ne sais même pas où aller. Quelques milliers d'euros, ce n'était pas beaucoup puisque je n'étais pas sur place. J'avais pas fait de donation goal. Ma participation s'est faite vraiment au dernier moment. J'ai su très très tard que je pouvais participer à distance, donc j'ai pas fait grand chose et je m'en excuse. Donc j'avais juste promis que tous mes subs du week-end iraient à la cagnotte et donc j'ai lancé une cagnotte. Alors combien? 10 000 balles, Sugarfrog? Sérieux? 10K? Ah, ok, cool. Bon, je pensais pas. Sérieux? Ok. 10K. Ok. Et donc moi, j'ai fait ma petite addition dimanche soir à la fin de mon dernier stream du week-end. Il y a eu le stream du vendredi soir, le stream de samedi après-midi, le stream de samedi soir et le stream de dimanche soir. Et j'ai pris tous les subs. Donc j'ai pris 5 euros par sub. Hein. J'ai pris large. J'ai pas pris que ce qui restait pour moi. J'ai pris ce que ça coûtait aux gens. En gros, j'ai pris 5 euros. Et donc, je suis arrivé à 300 subs. Donc j'ai fait un don de 1500 balles. Sur la cagnotte, voilà. Voilà. Donc c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, c'était mon petit engagement du week-end. Voilà. Comparé à ce qu'ont fait les autres streamers et les autres streameuses. Voilà. Après, j'aurais été sur place. Pour être tout à fait transparent, Amine m'a pas invité du tout sur place. Mais moi, je trouvais l'événement vraiment super. Et donc, j'ai écrit à Amine. Je lui ai dit, Amine, est-ce que je peux participer d'une manière ou d'une autre? C'est là où, un peu au dernier moment, il m'a dit, pas de problème, tu participes à distance. Voilà le lien de la cagnotte et tout. Enfin, il m'a pas filé le lien, mais j'ai appris après par les modos qu'il y avait un lien. Bref, on l'a fait un peu à l'arrache. Mais évidemment, j'aurais eu la chance d'avoir été sur place. J'aurais fait des donation goals. Je me serais mis en ordre de bataille pour collecter plus, comme je l'ai fait pour le The Event. Je crois qu'au The Event, j'ai collecté 460 000 euros à peu près. Donc, j'aurais fait plus, quoi. Mais encore une fois, moi, Amine, il a invité des gens plutôt proches de lui et ça, il y a zéro débat là-dessus, on ne se connaît pas avec Amine, il n'avait pas à m'inviter, il a très gentil. Il m'a ouvert la porte parce que je lui ai demandé. C'était déjà très très cool, quoi. Voilà. Peut-être pour la prochaine, si on m'invite, je viendrai. Je ne refuserai jamais une invitation comme ça. Pour une cause que je juge bonne, au-delà des polémiques, quoi. Ouais. Il y avait eu l'événement de, comment elle s'appelle, Baguera aussi, streamer for Palestinian. Pareil, quand j'ai vu le truc pop, j'ai écrit à Baguera, je lui ai dit, moi j'aimerais beaucoup participer. Et pour le coup, donc elle m'a totalement intégré. Donc tous les streamers étaient en distanciel, hein, il n'y avait pas de présentiel, et on avait bien bossé. Et là, pour le coup, j'avais une cagnotte qui était plus importante. Voilà. Donc pour le coup, c'était le deuxième événement auquel je participais en direction en partie des civils palestiniens, quoi. Voilà. C'était pas une lubie de ma part, c'était pas une nouveauté, quoi. Voilà. Tu aurais joué au match de foot pour faire rire les gens, ouais. Alors, quelle heure il est? Parce qu'il faut que je me. Faut pas que je. Ouais, ça va. 11h, ça va. Parce que je vous parle du reste de l'actualité quand même. Tu voudrais pas créer ton propre événement? Si. J'aimerais bien. Mais c'est là où je suis très admiratif de gens comme Amine et Zerator. C'est-à-dire que moi, je suis pas un organisateur, je suis pas un leader. Je suis un petit artisan dans mon coin, je fais des petits trucs, je lis les journaux, je fais des blagues. Voilà. Et en fait, quand je vois les talents d'organisateurs, de chefs d'entreprise, quoi, de gens comme Zera, Amine ou d'autres, qui sont capables de fédérer des énergies autour d'eux, de lancer des grosses prods, quand on voit la réalisation du match de football, tout ça. L'énergie que Zerator et Dash peuvent mobiliser pour le The Event, bon, moi je suis très admiratif de ça, je n'ai pas ces qualités. Peut-être que je les aurai un jour, peut-être que je vais apprendre à faire des choses plus. Voilà, mais c'est vrai que j'ai jamais su faire ça, quoi. Moi je travaille un petit peu dans mon coin avec Joe. Mais on est un tout petit binôme, quoi. Et donc je sais pas faire ça, je suis pas entrepreneur, si ça se saurait. Donc peut-être qu'un jour je vais tellement avoir envie de soutenir un truc ou une cause que je vais un petit peu me faire violence et me lancer dans des trucs comme ça. Mais c'est pas tellement ma nature, quoi, mon caractère. Alors déjà de participer aux événements des autres, je trouve ça cool, quoi. La prod est faite par Carnage, c'est pas Amine. Ok, d'accord. Ouais, mais bon. Voilà, mais bon, moi je ne sais pas faire ça, quoi. Mais c'est une forme de flemme aussi et de paresse, hein. Peut-être qu'il faudrait que je me mette une pile, quoi. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Voilà. Bon là, mon tout petit, alors là c'est pas caritatif, mais là par exemple je me fais un peu violence. Tenez, j'ai posté de ça ce matin. Voilà, pour un événement e-sport féminin là. Vous savez que moi, j'ai à cœur de mettre en avant le gaming et l'e-sport au féminin, parce que, pour le coup, il y a des choses à faire, hein, pour créer un cadre chill, safe, pour que les filles, les femmes puissent jouer aux jeux vidéo et monter leur niveau en compétition, en e-sport, sans se faire emmerder par la minorité de garçons un peu bas du front, voilà. Donc il faut créer un cadre un peu safe. Et donc moi je trouve cool de soutenir les événements 100% féminins. Voilà. J'ai fait une erreur. 24 équipes, c'est pas 96 joueurs. Je me suis gouré sur le chiffre. C'est possible, je suis nul. C'est x5. Bah ouais, t'as raison. J'ai pris les chiffres de l'orga, je crois. Là, c'est bizarre. Parce que c'est 5 par équipe. Ouais, vous avez raison. Ouais, c'est peut-être plus, ouais. Mais après, j'ai pris les chiffres de leurs gars. Ils attendent au moins une centaine de joueuses. Ouais. Donc, pardon, bon, je vais à l'essentiel. En gros, les 8 et 9 février, je suis assez fier de ça. Je host sur ma chaîne, et ce sera que sur ma chaîne, la 4e édition de RTS, Rise to Supremacy. Qui est donc en fait un événement Valorant 100% e-sport, quoi. On va aller voir d'ailleurs les chiffres que donnent les organisateurs. Parce que peut-être que je me suis gouré. Je vais vous montrer les casteuses aussi, parce que c'est 100% féminin. Je suis le seul mec. Ah, il y a peut-être des choses à distance. Ah, peut-être, ouais. Mais dans ce cas-là, il faut les citer aussi. Voilà, on va retrouver Célie notamment au cast. Je sais pas, j'ai eu du mal à trouver toutes les infos, quoi. Je vais faire un petit hashtag RTS4. Oh là là, calme-toi, quoi. RTS4. Right, ouais, ça doit être ça. Voilà. 24 équipes. Ah ouais, ils n'ont pas donné le nombre de joueuses. Peut-être. Ouais, je sais pas où j'ai trouvé ce chiffre. Oui, les touches rémanentes. Piou, 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 piou. C'est la plus grande féminine, la plus grande LAN féminine amateur sur Valorant jamais organisée dans le monde, quand même, en vrai. Je me demande si j'ai pas fait bêtement une erreur de calculette, moi. Je me demande si j'ai pas fait x4, moi. Alors, 80, tu vois, 24 x 4. Ouais, ça ressemble à ça, attends. Attends. Je me demande si j'ai pas fait ça, moi. Oui, c'est ça, ouais. Attends, quel boulet. Ah, je peux plus modifier. Bon, c'est pas grave. Bon. L'important, c'est de faire l'event. Bon, je pense qu'il y a plus d'une centaine de femmes, et là, effectivement, plus, quoi. Après, je sais pas si forcément il y aura 24 teams, au dernier moment, parfois, il y a des. Voilà. Bon, c'est, je dis n'importe quoi comme d'habitude. Les journalistes, il ne faut vraiment pas les écouter. Hein. C'est aucune rigueur, quoi. J'ai fait ça ce matin à l'arrache. J'étais un peu à la bourre, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est les 8 et 9 février. A priori, il y aurait jusqu'à 24 équipes. Je pense qu'il va y avoir autour d'une centaine de joueuses. Voilà. Je vais retrouver pas mal de joueuses que je connais déjà. Voilà. Et c'est 100% sur ma chaîne. Parce que pour le coup, par rapport à la dernière édition, parce que j'étais déjà là l'an dernier, où il n'y avait qu'une partie de la compétition que j'avais hostée. Là, j'hoste les deux jours. Je suis hyper content parce que ça va être genre 9h-20h, samedi 8, 9h-20h, dimanche 9, sur ma chaîne. Donc ça va faire deux belles journées de stream et je vais co-caster. Alors co-caster, évidemment, quand les organisateurs m'ont demandé si je voulais bien faire ça, j'ai dit ok, mais mettez-moi des pros du cast avec moi parce que vous savez que je joue à Valo, mais pour caster, c'est un métier, quoi. Et donc il y a quatre casteuses, je suis le seul bonhomme dans cette histoire. Il y a Céline, que vous connaissez sans doute, qui est une super, très jeune casteuse Valo. Il y a Chipset, que je connais bien, que j'ai déjà croisé à des events. Voilà. Il y a Kumquat aussi, pareil. Voilà. Et Marie-Amélie, que je connais bien aussi, pour l'avoir croisée sur des events Valo, quoi. Donc, des excellentes casteuses, pour le coup. Et en fait, je vais co-caster avec ces casteuses. Voilà. Je suis le seul bonhomme, quoi. Voilà. Donc ça va être sympa comme tout. Et il va y avoir plein de joueurs. Pourquoi j'ai mis 96? Ça n'a aucun sens. Putain. C'est pas 96, je pense qu'il y a un peu plus. Personne ne commente? C'est marrant. Personne ne s'est rendu compte que je me dégourais sur le calcul. Bon, tout va bien. Tout va bien. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple. J'essaie d'un petit peu de me faire violence et de faire des trucs avec les autres, mais c'est le cast et le commentaire, en fait, très souvent, c'est le commentaire de match e-sport. Caster un match, c'est commenter un match. Voilà. Bon, on revient à l'actu ? Ouais. On revient à l'actu. Il y a une bonne nouvelle sur l'environnement en France, une fois n'est pas coutume. Les calculs sont pas bons, Samuel, je sais, ouais. Tu peux m'appeler Kevin. Hein. Ouais. Alors, regardez, quand la tablette va se réveiller, c'est le 8 et 9 février. C'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. La France, c'est dans le Figaro Économie, championne de l'électricité bas carbone. C'est un tout petit article, mais pour le coup, je trouvais intéressant d'en parler. 2024 aura été l'année de tous les records pour la production d'électricité française. Les énergies bas carbone, incluant le nucléaire et les renouvelables, donc hydroélectricité, éoliennes, panneaux solaires, ont représenté pour la première fois 95% de la production française d'électricité selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport. Voilà. Dans le détail, la production nucléaire d'EDF a progressé de 12%. L'hydroélectricité a progressé, est au plus haut depuis 2013. Voilà. Suivie de près par les filières éoliennes. Elle, en baisse de 8,4% en raison d'un déficit de vent. On a eu moins de vent. Voilà. Et les panneaux solaires en hausse de 1,8%. A contrario, la production d'électricité d'origine fossile, donc gaz et un petit peu charbon et fuel, a atteint son plus faible niveau depuis le début des années 50. Voilà. Conséquence, la production d'électricité française affiche une intensité carbone de 21,3 grammes équivalent CO2 par kilowattheure produit, près d'un tiers de moins qu'en 2023. Parfois, il y a des bonnes nouvelles dans l'actu. Une des plus basses du monde, souligne RTE. Ces excellentes performances ont aussi permis à la France de battre ses records d'exportation avec l'énergie vendue à ses voisins. Une bonne nouvelle pour la balance commerciale nationale, petit cocorico, même si l'électricité ne représente que 40% de la consommation énergétique, contre 60% de pétrole et de gaz importés. Voilà. Donc ça, un petit cocorico, de temps en temps, il y a des bonnes nouvelles quand même dans l'actu, quoi. Exactement. Comme dit Bibi Carbonate, c'est ce que vient de dire l'article. C'est une bonne nouvelle, mais n'oublions pas que la France utilise encore plus de 50% d'énergie fossile dans le mix énergétique total. Tout à fait. Merci à Yaman Varius pour le Prime. Merci Miaou Miaou. Merci les Ox. Alexandra, oui, il y aura un MVP la semaine prochaine, ouais. Mercredi. MVP qui est passé le soir à 18h. Alors, autre bonne nouvelle, voilà. Enfin, en tout cas, une nouvelle intéressante sur un plan scientifique. Voilà, je ne sais pas si les médias en ont beaucoup parlé, c'est dans l'Humanité, l'article va revenir dans un instant, la sonde Parker a frôlé le Soleil. Ça m'a fait un petit peu rêver quand j'ai vu ça ce matin. C'est un exploit, nous dit l'Humanité. Astrophysique, pour la première fois de l'histoire, un engin fabriqué par l'homme est passé tout près du Soleil. La mission de la NASA s'est approchée à 6 millions de kilomètres de notre étoile pour étudier sa couronne, la partie extérieure de son atmosphère. Ouais. Il paraît que c'est une première. Jamais un engin scientifique, pardon. Ouais, il faut lire tout parce que sinon c'est bizarre. Jamais un engin scientifique expédié par l'humanité n'avait approché de si près notre étoile. Le mardi 24 décembre, à 12h53 heure de Paris, la sonde solaire Parker Solar propre de la NASA est passée à 6,2 millions de kilomètres de la surface du Soleil, petite distance à l'échelle de l'espace. Hein ? Oui, c'est vrai, 6 millions de kilomètres, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de l'espace, c'est que dalle. À ce moment-là, Parker a été la première mission spatiale à pénétrer dans la couronne qui entoure le Soleil, la couche la plus externe de son atmosphère, à la vitesse fulgurante de 690 000 km par heure. Vitesse qui permettrait de rallier Washington à Tokyo en moins d'une minute. Très rapide. PSP avait été lancé en 2018. Putain, la vache, la durée du voyage. Depuis Cap Canaveral, en Floride, pour parvenir aussi près du Soleil, la sonde a voyagé pendant 6 ans et effectué des boucles de plus en plus rapides en utilisant à 7 reprises l'assistance gravitationnelle de Vénus. C'est chaud en vrai. Parker a dû attendre son 22e passage pour s'approcher ainsi du Soleil. Incroyable. Alors, moi, je suis en train de me dire qu'il devait faire chaud. Hein ? Non, c'est pas Tony Parker. C'est pas Parker Lewis non plus pour les plus vieux. C'est Parker la sonde. Pendant que la sonde explorait la couronne solaire, son bouclier thermique en carbone de 11,4 cm d'épaisseur a dû endurer des températures dépassant les 900 degrés Celsius, le cœur du satellite demeurant tourné en permanence vers le milieu interstellaire qui, lui, est glacial. Ah ouais, il y a un bouclier thermique qui est tourné vers le Soleil et l'autre côté qui est vers le vide, quoi. Enfin, le vide, vers là où il ne fait pas chaud, quoi. Et résultat, les instruments scientifiques sont restés à une température de 29 degrés. Marche bien leur truc. Hein. Marche bien leur truc. Qu'est parti faire la sonde Parker là-bas ? Qu'est parti faire la sonde Parker dans la couronne solaire ? Cette partie extérieure de l'atmosphère du Soleil qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres. La mission vise à mieux répondre à deux des grandes questions de la science ouverte au milieu du XXe siècle. La première de ces deux questions est pourquoi la température de la couronne solaire dépasse 1 million de degrés alors qu'elle n'est que de 5500 degrés à la surface de l'étoile. Très bonne question. Pour expliquer ces différences de température, il y a un professeur de physique et chercheur qui s'appelle Thierry Dudoc de Witt qui a fabriqué un des magnétomètres de Parker et il pense que plusieurs mécanismes contribuent à chauffer la couronne solaire. Il explique ça, je comprends rien, c'est intéressant. La seconde énigme. Énigme à résoudre est de comprendre comment des tempêtes solaires émanant de la couronne, malgré la force d'attraction gravitationnelle qui devrait les retenir, bombardent de flots de particules les planètes du système solaire dont la Terre. C'est pas ça qui gêne les télécommunications d'ailleurs parfois ? Si ces vents solaires, une fois arrivés dans l'atmosphère terrestre, offrent le merveilleux spectacle des aurores boréales et australes, okay, ils peuvent aussi engendrer, ah bah c'est ça, des perturbations magnétiques et brouiller les communications terrestres. En 89, par exemple, il y avait une éruption solaire qui avait provoqué l'arrêt pendant 9 heures des centrales nucléaires, électriques du Québec. Donc ils essaient de comprendre ça. C'est étonnant. Chaud, hein ? Oui, c'est le cas de le dire, quoi. Voilà. Donc on sait faire ça, nous. On sait se taper sur la gueule, les humains, puis on sait envoyer aussi des sondes qui vont voyager pendant des années pour essayer d'analyser notre étoile, notre solaire. Merci Morak. Merci Bertucci. J'ai froid, je mets mon petit sweat. Il y a un risque que ces tempêtes soient de plus en plus problématiques pour la Terre. Me dit Hard Rock Gamer, c'est aussi pour ça qu'ils veulent comprendre. Ils ont l'électricité au Québec. Oh, le kitrail, ça va pas, non? C'est mon prof de fac, me dit Arasimbar, il est super intéressant. C'est fou. C'est marrant, en vrai. En parlant d'astronomie, me dit Nono l'escargot, ce soir, 6 planètes sont visibles dans le ciel aux alentours de 19h. Oh, bah moi, je vois. Déjà, je vois rien sur Valo, alors dans le ciel. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Qui a pris la photo de la sonde? Ah, très bonne question. Qui a pris la photo de la sonde, là? Me demande Lee Scorpio 59. À mon avis, c'est Elon Musk. Il est très très fort. Je pense que c'est Elon Musk avec un petit Polaroid. Voilà. Il a fait un petit salut. Au soleil. Voilà. Et il a pris cette photo. Voilà, il a tendu le bras. Voilà. Il a tendu. C'était ça, en fait, putain, le salut. Et oui, en fait, il prenait en photo le soleil. On est cons aussi. Mais oui, mais on est débiles. On est débiles. Mais vous voyez, on pense pas à tout. Mais oui, mais en fait, voilà. Les esprits chagrins, là, les saluts bizarres, mais pas du tout. Le mec prenait une photo. Tout s'explique. Alors, moi, j'adore ce genre d'article. Moi, vous, je sais pas, mais janvier, c'est dur. C'est dur. Je me sens pas à 200%. Je me sens pas en grande forme. Je me dis qu'il faut que j'aille faire du sport. J'y arrive pas. Je me sens pas à mon prime. Je trouve que mon corps se relâche, mon visage se relâche. J'ai l'impression que mon visage est en train de fondre, littéralement. Que tout se relâche. Voilà. Et je suis pas à 200%. Et mon épouse, qui travaille beaucoup en ce moment, Hélène, que j'aime, elle est un peu pareil aussi. Un taf qui est très exigeant et un petit peu fatigué aussi. Quoi. Et donc, j'ai vu cet article dans La Croix ce matin. Comment garder le moral en janvier? Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne serai pas le seul à être un petit peu dans mes chaussettes. Le lundi 20 janvier était réputé pour être le jour le plus déprimant de l'année. Ce qui est une connerie, évidemment, ça n'a aucune réalité scientifique. Mais je crois que globalement, le mois de janvier, c'est peut-être pas le mois où on est le plus en forme. Alors, La Croix pose quand même cette question. Comment maintenir sa bonne humeur et entretenir son optimisme entre le temps Mossad et l'actualité anxiogène? Et là, moi, j'ai envie de dire, déjà, il faudrait demander à certains streamers d'arrêter d'amener sur Twitch l'actualité. Parce que les gars qui amènent sur Twitch le Proche-Orient, Trump, le racisme, la politique, tout ça, les polémiques, moi, je dis déjà, en enlevant ces gars-là, ça enlèverait un petit peu de l'anxiété, quoi. Je dis ça, je dis rien. Considéré comme le jour le plus déprimant de l'année, le Blue Monday est tombé cette année le 20 janvier. Bon, évidemment, ça n'a aucune valeur scientifique, ce truc-là. Désormais largement relayé sur les réseaux sociaux, ce lundi déprime est au départ une invention purement marketing, d'ailleurs, rappelle La Croix. Hein. Depuis 2000, une agence de voyage a théorisé l'idée pour tenter d'attirer de nouveaux clients en vendant des séjours au soleil. C'est marrant parce que pendant le sommaire, tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient un peu en mode justicier de l'espace de l'actualité qui disaient « Ouais, qu'est-ce que tu racontes ? C'est une invention de l'agence de voyage pour vendre des voyages. C'est encore un truc du capitalisme. Et tu le dis pas. T'es vraiment qu'une ordure, Samuel Etienne. T'es vraiment à la solde de ces journaux capitalistes. Voilà. » En fait, c'est dans l'article, mais évidemment, dans le sommaire, on le dit pas parce que c'est juste le sommaire. Il faut juste attendre un petit peu, quoi. C'est comme ça. Mais bon, je riais bien, mais vous voyez, j'ai rien dit. Je me suis dit, c'est pas grave, on va attendre l'article. Donc, l'article dit que c'est une invention marketing, cette histoire. Publicité mise à part, janvier, avec sa froidure et son manque de lumière, n'est quand même pas le mois le plus propice à la joie de vivre. C'est ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier. Ah, ça a un nom. Ça a un nom. Le trouble affectif saisonnier. C'est Philippe Gabillet, qui est professeur de psychologie et cofondateur de la Ligue des Optimistes, qui le dit. Il y a une Ligue des Optimistes. Nous avons encore un rapport très animal à la nature, dit ce monsieur. Alors, quand on se lève, le temps est mauvais, on manque cruellement de lumière, le moral baisse et l'énergie se perd. Okay. Comment, dès lors, cultiver son moral, sa bonne humeur? Il faut jouer aux jeux vidéo, c'est pas vrai. D'abord, il faut vérifier que le pessimisme que l'on ressent n'est pas l'indice d'une maladie dépressive. Ouais. Hein? Si on n'a plus aucune envie, qu'on se considère comme une mauvaise personne, que la fatigue est la même après un week-end de repos qu'un jeudi matin et que les émotions négatives sont constantes, alors il faut s'interroger. Hein? Il faut pas que un sentiment de fatigue cache en fait quelque chose de beaucoup plus grave qu'une dépression. Ça, c'est très sérieux, c'est très important. Il est normal d'avoir des accès de pessimisme, mais pas que ces accès soient permanents. Hein? Souligne le professeur Michel Lejoyeux, qui est le chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat. Il faut ensuite oser devenir optimiste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Hein? Tout est dans notre nature et notre environnement nous pousse à être pessimiste, dit Michel Lejoyeux. Beaucoup de personnes rétorquent, comment être optimiste alors que les glaciers fondent et que la Californie crame? On dirait mon chat. On dirait mon chat. Hein? C'est presque selon elle un manque de conscience ou de morale. Je leur réponds, on a le droit d'être triste, mais on n'a pas le droit d'aimer la tristesse. Hein? Cela ne nous rendra pas plus concernés ou intelligents. C'est intéressant. Michel Lejoyeux. Ah oui, Michel Lejoyeux, spécialiste de la tristesse. Ah oui, je n'avais pas vu ça. Le mec s'appelle Michel Lejoyeux. C'est un spécialiste de la dépression. Ah oui, mais lui, il part avec un peu d'avance, lui. Attendez. C'est normal. Le mec, depuis qu'il est né, en fait, il est conditionné pour tenir ce discours. C'était son destin, mais oui. Tsubasa, bien sûr. Incroyable. T'imagines quand il rencontre des dépressifs? Oui, mais il faut pas prendre les choses comme ça. Il faut que vous repreniez un petit peu du poil de la bête. Oui, professeur. Professeur comment d'ailleurs? Professeur Lejoyeux. Et là, tu te demandes si le mec se fout de ta gueule. T'as un mec qui est en train de soi-disant de t'aider à combattre ta dépression et il s'appelle professeur Lejoyeux. Mais là, moi, je suis dépressif, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Ok, et après, il y a Blanche-Neige qui arrive et les sept nains. Non, parce qu'il y a un nain qui s'appelait Joyeux, je crois. C'est ça que je dis. C'est ça qui va se passer. Cultiver l'optimisme nécessaire enfin de mettre en place des choses concrètes. À l'unanimité, les spécialistes s'accordent sur les bases à consolider. Alors, voyons ce qu'il faut faire pour pas être trop dépressif en janvier. Bon. Un bon sommeil. Merde. Ça, c'est pas bon, ça. Ok. Une alimentation équilibrée. Ok. Ça va pas non plus. Et de l'exercice physique. Eh ben, voilà, j'ai arrêté le sport depuis que j'ai découvert le jeu vidéo. Je coche toutes les bonnes cases. Ces trois choses sont non négociables. Ok. En réalité, tout ce qui va nous redonner le moral, ce sont des actions. Il faut faire, il faut agir. Ouais, j'ai 0 sur 3. Planifier des moments de plaisir, mettre en place des routines positives. Bon, peut-être qu'il a raison, hein. Les gars, le gars, il nous dit, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut dormir. Faut manger équilibré et il faut faire du sport. Vous savez quoi? Je suis pas sûr que ça suffise. C'est un vrai entraînement de cultiver la bonne humeur, ça se travaille, confirme Florence Servan-Schreiber, autrice et conférencière formée à la psychologie humaniste. Mais pas de panique, il n'y a pas besoin de choses extravagantes. Si on s'entraîne à prendre du temps le matin pour se lever au lieu de se jeter sur son téléphone, à bouger même 5 minutes dans sa salle de bain, on ne se sentira pas pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes dans sa salle de bain? 5 minutes en bougeant. C'est-à-dire, à quoi elle pense? 5 minutes dans sa salle de bain. Comment ça? Ah, se brosser les dents. Une quoi? Une pougnette. Qu'est-ce que c'est que ça? Une quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des nouveaux mots. Vous inventez des mots, là? Ouais, le brossage des dents, ça, je connais, ça. Ce quoi, ce LeBron James? Qu'est-ce que vous inventez encore, là? Qu'est-ce que vous inventez des nouveaux mots? Attendez, je vais taper ça sur Google. Ce LeBron James. Quel rapport avec la dépression? Alors, ce LeBron James. Surprenant à première vue, ce LeBron James est devenu un verbe argotique dans certaines sphères d'Internet. Ah, c'est vous ça. Désignant l'acte de se masturber. Quel rapport? Quel rapport? L'expression tire sa signification d'une ligne du rappeur Caris, qui joue avec le nom de LeBron James pour évoquer de manière détournée et humoristique l'acte de masturbation. Quoi? Mais quel rapport? Mais quel... Branler, Lébran, Lébron? Lébron? Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est pour... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais. Oh là là. Oh là là. D'accord, ok. Bon, ok, j'ai... Bah, maintenant j'ai la ref. D'accord. Putain, les jeunes. Bon. Voilà. Donc, il faut bouger 5 minutes dans sa salle de bain. On partait de là. On peut aussi simplement se faire à manger des bonnes choses au lieu d'acheter du tout fait. Bon, voilà. Bon, c'est très gentil tout ça. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, je constate que le mois de janvier est un petit peu compliqué. Si vous avez un petit peu de mal en ce mois de janvier au niveau du moral, de tout ça, eh bien, sachez que c'est normal, que vous n'êtes pas tout seul. Moi-même, mon mois de janvier n'a pas été foufou. Voilà. 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 J'ai eu des petits coups de fatigue. Vous aussi ou pas ? Se barbouiller la bredouille. Arrêtez avec vos expressions, là. Incroyable, ça. Si c'était que janvier, ouais, je vous envoie de la force, moi. C'est juste que quand tu regardes par la fenêtre, c'est que brouillard et grisaille. Ben oui, je sais. Et puis le froid. Oh, il y a un froid de gueux en ce moment à Paris, c'est un enfer. Force, le Loris pour le taf. C'est le manque de soleil. Il y a un gars dans le chat, il s'appelle Breton Pur Beurre. Breton. Breton Pur Beurre. Il dit c'est le manque de soleil. Et pas à nous, hein. Quelle est la différence entre le mois de juillet et le mois de janvier en Bretagne? Je sais, je suis breton, j'ai le droit de le dire. Non, 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 dites pas que vous êtes déprimé en Bretagne en janvier à cause du manque de soleil. Qu'est-ce que vous inventez là? Moi j'ai vécu 18 ans là-bas. Il n'y a aucune différence entre les mois. Qu'est-ce que... Hein? On me la fait pas, moi. Oui, la pluie est un peu plus chaude l'été, oui. Oui, c'est ça. J'ai passé un été en Bretagne, il faisait super chaud. Oui, ça arrive, tous les 200 ans. Mais c'est pas non plus, c'est pas non plus la règle, quoi. Bon, on va rigoler parce qu'il reste un petit peu de temps et ça va nous permettre de faire un truc marrant qui va pas marcher. D'abord, on va lire rapidement l'article sur Wembanyama. Ouais, Wemby, là, voilà, hein, ce géant, et pas seulement au sens propre du basket américain, à la conquête de la France, parce que Wemby, il est en France, là. Le géant du basket français est arrivé ce lundi à Paris, où il jouera deux matchs NBA avec les Spurs, tout en faisant en sorte d'accroître sa notoriété auprès d'un large public. Est-ce qu'il a besoin d'accroître sa notoriété, hein? Je crois que tout le monde le connaît, il est incroyable. Raz-de-marée attendu, Wemby débarque en France, et tout porte à croire que le basket français s'apprête à vivre un moment très fort de son histoire. Peut-être un tournant pour le jeune géant de 21 ans aussi, quelques jours à Paris sont décisifs. Et l'enjeu va bien au-delà du résultat des deux matchs qu'il s'apprête à disputer avec les Spurs contre les Indiana Pacers. C'est génial. Quel goat celui-là quand même. Hein. C'est ouf. Premier basketteur français, on va le rappeler, choisi à la première place de la draft NBA en juin 2023. Le gamin du Chiennet dans les Yvelines est devenu une des principales têtes d'affiche du prestigieux championnat nord-américain. Son histoire est incroyable quand même. Il est déjà l'un des joueurs les plus performants sur les parquets et suivi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a beaucoup d'attention, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce truc? Comment ça? Un récent sondage Odoxa pour Winamax et RTL conforte ce sentiment. Si Wembanyama a gagné 20 points de notoriété en 18 mois, il ne reste aujourd'hui connu que de 56% des Français. T'as 44% des Français qui ne connaissent pas Wembanyama. T'as 44% des Français qui ne savent pas qui est ce grand gars-là. Ils pensent que c'est quoi? Ils pensent que c'est un mec qui peint des plafonds. Il prend un pinceau, il... Mais ils sont... c'est qui ces gens? 44%?
Dans le chat, certains connaissaient pas? Vous connaissez pas ce gars-là? Le plus... Non? Le premier français que les Américains ont mis en numéro 1 sur la draft, non? En NBA. Mais jamais vous venez sur la matinée, Étienne, alors? Oh là là, c'est pas possible, ça.
Non, mais oui, non, mais c'est un... Non, mais je rigole. Moi, je le sais parce que je lis les journaux tous les jours, mais je comprends.
En marketing, il est déjà dans le cercle très fermé des athlètes populaires en France, mais le souci est que le grand public n'est que peu intéressé par le basket ou la NBA qui se joue en pleine nuit, estime un spécialiste du conseil en images des sportifs. Ah ouais ? Pourtant, j'ai l'impression, moi, quand je parle des candidats de questions pour un champion, j'ai quand même de plus en plus de passionnés de basket et notamment de la NBA qui se réveillent au beau milieu de la nuit et tout, pour voir les matchs, quoi. Ok, d'accord. J'avais pas conscience de ça. Je pensais que c'était déjà fait, quoi. Très discret dans les médias, l'ancien joueur de Nanterre, intrigué par sa personnalité unique, se promène toujours avec un livre, est capable de répondre à des questions sur la matière noire ou d'improviser des parties d'échecs dans un parc à New York. C'est vrai qu'il est étonnant, ce jeune homme. Étonnant. Il est incroyable. Moi, je suis assez admiratif, quoi. C'est incroyable. Comment il gère aussi sa carrière, tout ça, quoi. Il a le cerveau, quoi. Bon, manifestement, auprès des jeunes, c'est un peu une star, quoi. Bon, super. Allez dans le Parisien, les amis. Maintenant, on va faire un truc de fou. Parce que comme il me reste un petit peu de temps avant mon Teams de midi, on a été assez rapide, là. Merci. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'ambiance dans le chat ce matin, là, sur des sujets parfois compliqués. Sur Musk, Trump, le Proche-Orient, là. Vraiment, le chat m'a étonné par sa qualité. Voilà. Non, mais pourquoi je range ma tablette ? On va faire un truc. Moi, j'ai ma carte d'acquisition, là. De mon iPad qui est en train de me lâcher, vous avez vu, mon iPad n'arrête pas de se déconnecter et j'ai investi un petit peu. Ouais, l'installation en live, Sugar Frog a deviné. Voilà, et j'ai investi un petit peu. Alors j'ai acheté deux trucs que j'ai pas du tout essayé. Tu veux un coup de main ? Non, pas du tout, je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Alors attends. J'ai acheté deux trucs, voilà, et je pense que rien ne va marcher. Parce que en fait, j'ai déjà fait des essais il y a longtemps avec ce PC, ça marchait pas. Une histoire de port USB 3 et tout. Voilà. Alors, je fais un mini pipi, parce que là, il me faut de la sérénité, il me faut du calme, il me faut de la concentration. Et on va essayer de nous-mêmes, c'est pas sponsorisé par les gâteaux, hein, j'ai tout acheté. Hein. Donc, pas de hashtag publicité. Hein. Et donc, on va essayer d'installer. Voilà. Si ça marche, c'est un miracle, j'y crois pas du tout. J'arrive, bougez pas, il y a un petit pipi. Venez, on lui fait une surprise. Quand on revient, on met que des Pikachu dans le chat. Ok, d'accord. Ouais, je me suis coupé. Avec une fiche de questions pour un champion. Très dangereux. C'est pour ça qu'en fait, tout le monde ne peut pas présenter questions pour un champion. Hein. On n'a été que deux dans l'histoire de choses à se présenter parce que justement, il faut une certaine habileté. Voilà. J'ai vu votre message secret. Hein. Et donc, voilà, je me suis coupé avec une fiche de questions pour un champion. La culture, c'est très dangereux. Ça s'est infecté. Voilà, j'ai failli perdre le doigt. Je suis pas médecin, mais je pense que j'ai failli sans doute perdre le bras. Et ce matin, j'ai mis du pipsheet et un pansement pour arrêter l'infection. Voilà. Alors j'ai acheté deux trucs. Voilà. Ça, c'est la nouvelle. Je sais pas comment ils appellent ça, moi. Là. J'appelle ça une carte d'acquisition, moi, mais c'est pas ça en fait. Boîtier d'acquisition là, de Elgato. Voilà, c'est la HD 60X. Alors que ça, c'est la HD 60 S+, qui est en train de me lâcher. À supposer que ce soit ça, d'ailleurs, que ce soit pas un autre problème. Mais ça, j'avais déjà essayé de la connecter, ça n'avait pas marché. Voilà. Et puis ça, c'est un autre truc. Voilà, un autre boîtier Elgato, qui est tout nouveau, mais je sais pas comment ça marche non plus. Voilà. Donc, soyons fous, commençons par... C'est pas Joe qui s'occupe de ça? Ben non, c'est moi. Ben non, mais Joe, il est là pour réaliser les émissions un peu compliquées, mais ce setup-là, j'ai quand même streamé pendant longtemps avant de rencontrer Joe. Hein. Ben, je sais quand même faire mes setups, quoi. Quand je vais aux e-event et que je stream 3 jours, je suis tout seul. Hein. Eh ouais, je suis un ouf, moi. Alors attends, là par exemple, j'ai un nouveau truc, je sais pas. Voilà. Mais avec, peut-être qu'avec cet adaptateur, ça pourrait marcher. Alors attends. Donc lui, il veut quoi, lui? Il y a du HDMI, là? HDMI in-out, USB-C. Alors l'USB-C, je crois pas avoir un port USB-C. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai pris un adaptateur. J'ai pris un adaptateur qui pourrait me faire une sortie HDMI. Ouais, ici. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et donc là, par exemple, ce serait drôle d'ailleurs que ça marche sans. Ce serait incroyable. Donc là, j'ai mis un adaptateur, un vieil adaptateur pour sortir USB-C vers du HDMI. Voilà. Et normalement, il faut que je passe par ça quand même. Et là, bah lui, c'est du... Et là, je vais prendre... Voilà. Alors, je vais... Du HDMI, en veux-tu, en voilà. Donc ça, c'est... Ah bah non. Ah bah non. Non, ça marche pas. Voilà. Bon, je vais débrancher ça. Hop. Et... Tu commences par le plus compliqué, puis après on fera le plus simple. Je pense qu'il n'y a rien qui va marcher. C'est ça qui est drôle. Ça, c'est HDMI. USB-C, ok. Et ça, c'est du... Et lui, il va sur le PC, lui. Toi, tu es connecté ici, d'accord. Donc, j'ai ici, j'ai un port USB-C. Non. Comment ça s'appelle les vieux ports, là? Pas les USB-C, là, les merdes. Mais USB-A. Non, pas Péritel. Ça. On s'appelle ça, déjà. Non, pas Depardieu. USB-A, ok. Donc, j'ai un USB-A qui est sur le PC, d'accord. Ça, c'est mon entrée. Et donc peut-être que voilà, je prends ce boîtier, je sais pas comment il marche celui-là. Hop, je connecte l'USB-C sur ce boîtier Elgato. Tiens, ça fait un ding-ding. Voilà, et lui, il faudrait qu'il sorte idéalement en HDMI. Du coup, il n'a pas besoin d'adaptateur, alors. Aucune chance que ça marche, je fais n'importe quoi. Je fais au feeling. Je fais au feeling. Ça n'a aucun sens. Et HDMI qui m'appelle. Je connais pas le numéro. Out ou in? Une idée. Bon, ma tablette, est-ce qu'elle va sur le HDMI in ou out de ce truc? In, logiquement. Ok. Je ne sais même pas s'il est alimenté, ce truc. Bon, je fais n'importe quoi. Ok. Donc, je pense que je vais créer une nouvelle scène que je vais appeler. Attends. Ok. On va l'appeler, je sais pas moi. On va l'appeler périphérique de capture vidéo, c'est ça, ouais. Ok. On va l'appeler, moi, je sais pas, test new iPad. Voilà. Ok. Game capture. Ah, il a vu. Elgato Game Capture Neo. C'est le nom de mon truc. Ok, le PC le détecte. Ça, c'est déjà un truc, ça. Ça marche ? Attends, j'ai réussi ? Ça marche, mon truc ? Ah non, ça se déconnecte. Oh ! Oh, ça remarche ! Attendez, est-ce que c'est stable ? Est-ce que c'est stable ? Parce qu'en fait, le problème de l'autre, c'est que c'était pas stable. Ça se déconnectait sans arrêt. Auquel cas, c'est pas un problème de boîtier, c'est un problème de connectique ou de câble. Ah, alors, est-ce que là, j'ai de la stabilité, là. Incroyable. Mais ingénieur. Ingénieur. Incroyable. Donc ça, c'est iPad New, quoi. Donc c'est... Où est-ce que je l'ai mis ? Test new iPad, c'est ça. Là, je le masque. Ok. Oui, parce qu'il prend toute la place, bien sûr. Je vais le réduire, peut-être. Hop. Voilà, vous voyez, ça, c'est la nouvelle scène, ça. Hop, vous me revoyez, je suis là. Incroyable. On va le mettre là. Incroyable. Et c'est stable. Ça ne bouge pas. J'ai acheté ça au pif sur Internet. Je suis allé voir sur le site d'Elgato. J'ai acheté ce truc-là parce que c'est la nouvelle génération de ce que j'avais déjà avant, là. C'est la X au lieu de la S. Et du coup, j'ai acheté ce nouveau truc-là. Où il disait que c'était vraiment facile pour capturer... Ah ! Ça a sauté. Ah. Donc, c'est peut-être pas un problème de boîtier. Mais c'est quand même plus stable. Ah, c'est peut-être un problème de câble. Non, c'est pas l'iPad. Non, l'iPad, non. Ah, ouais, ok, ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus stable. C'est quand même beaucoup plus stable. Regardez, c'est quand même beaucoup plus stable. Ah non. On a toujours le problème de noir, là. Par contre, ça revient beaucoup plus vite. C'est un peu plus stable, mais toujours pas très stable. Faut trouver un peu plus stable, exactement. Ouais. Là, en fait, et là où c'est pas un problème de connectique, c'est que si je ne bouge pas, vous allez voir, ça va disparaître quand même. C'est là où je pense que ça n'est pas un problème de connectique. Vous voyez ? Parce que là, je ne bouge pas, je ne touche à rien. Regardez, mes mains sont là. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va quitter. Mais c'est quand même d'une beaucoup plus grande stabilité. Ah, voilà, vous voyez ? Alors, votre avis, c'est quoi ? Ah, si ça disparaît sans toucher, c'est pas les câbles. Exactement. Mise à jour de quoi ? Des drivers ? Non, il n'y a pas de mode veille, non. Ça peut quand même être le câble. La tension s'accumule dans le câble et reset par la capture, ok. Mise à jour du driver et de Windows, d'accord. Ok. C'est peut-être ton câble USB qui est de mauvaise qualité, ça me faisait ça avec un câble HDMI. D'accord. Ah ouais, j'en ai un autre. On peut essayer ça. Est-ce que j'ai l'impression que c'est quand même plus stable qu'avant. Je trouve qu'on progresse. Il y a deux choses. Quelle heure il est ? J'ai toujours le temps ou pas ? Ouais, 11h48. J'ai un team samedi. En général, ce sont les pilotes qui sont à mettre à jour. Mais les pilotes, vous dites les pilotes de quoi précisément ? Les pilotes du driver de quoi ? Pilote de ligne, pilote de Formule 1.
Ok.
Foutez de ma gueule, quoi.
Foiré.
Vous êtes vraiment moqueur. Hein. L'USB-A supporte mal le flux vidéo. Il faudrait USB-C vers USB-C et pas d'adaptateur. Est-ce que je crois que sur ce PC-là, j'ai pas d'USB-C. Ouais. Attendez, on va tester un truc. Est-ce que ça a bougé pendant que j'étais parti ? Non, il n'y a pas d'USB-C sur ce PC. Ah. Et là, ça a coupé, là. Francis, arrête avec des blagues, là. Non, à l'arrière, il y a... Non, pas sur ce PC, là. Clic droit sur Windows, gestionnaire de périphériques. Attends, on va essayer de faire ça. Gestion de périphérique. Ok. Tu sélectionnes ton... Après, je sélectionne quoi ? Ton USB. Comment je le trouve, l'USB ? Comment je sélectionne périphérique. Putain, il y en a plein. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je... Là, je suis sur les gestionnaires de périphériques. C'est le nom et le gâteau machin que ton ordi a détecté. J'ai ma carte graphique, ça, d'accord. Carte réseau. Ok, composant logiciel, composant. Ah, le gâteau, je l'ai trouvé. Ça y est, le gâteau, Game Capture Neo. Mettre à jour le pilote, ça y est, je suis dessus. Les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés. Voilà, c'est déjà fait. Et mettre et sur la Game Capture, c'est fait aussi. Ouais, non, ça marche pas. Enfin, c'était déjà ok. Donc c'est pas ça. La stabilité est quand même beaucoup plus grande. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. Là, j'ai un autre câble USB-C, USB-A, voilà, et qui va remplacer donc celui qui va au PC. Voilà, tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Pour voir si c'est pas le câble qui relie le PC au nouveau boîtier. Sachant que quand même, le nouveau boîtier est quand même beaucoup plus stable. Voilà. Hop. Donc là, je pense, là, du coup, le changement de câble, je pensais un peu niquer le truc. Désactiver, activer. Ah, voilà. Là, j'ai changé le câble. On va voir. Il me reste combien de temps avant de vous quitter ? Tiens, je m'assois sur une boîte, ça fait mal. Mal aux fesses. Alors, on va voir si c'est plus stable. On a changé le câble, sachant qu'il y a deux câbles. Il y a un câble donc qui va du boîtier et le gâteau USB-C, USB-C, et il y a un câble USB-A, USB-C qui va du PC au boîtier. Voilà. Réglage du temps de capture vidéo, si réglé sur vidéo. C'est quoi ça, grand pas ? Dis-moi. On a le même souci. Donc, c'est pas le câble. Ouais. Boubou, tu dis c'est logiciel, pas matériel ? Un autre port sur l'ordi ? Ouais. Est-ce que le port USB est bleu ? Non, Il n'est pas bleu. Mais des ports USB bleus. Ouais. Je crois que j'en ai pas beaucoup sur ce PC. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus stable qu'avant, quoi. Ça repasse par Elgato, là, les petits trucs, mais. Sinon, je peux faire en HDMI aussi, attends. Parce que là, j'ai relié. On peut peut-être faire en HDMI. Mais là, j'ai pas de câble HDMI sous la main. Il faudrait que je fouille un peu dans le studio. Bon, je fais ça cet après-midi. Ouais. Bon, mais merci. Bon, c'est pas mal, hein, déjà, hein, ce qu'on a fait là. Voilà. Je trouve déjà qu'on a plus de stabilité. Voilà. D'ailleurs, si on a le temps, regarde, parce que j'ai ça aussi. Mais en fait, on voit bien que c'est pas un problème de boîtier, quoi. Hein. Regarde s'il n'y aurait pas un lutin magique sous la table qui s'amuse à débrancher, à rebrancher. Non, c'est pas ça. Il n'y en a pas. Ouais. Non, l'USB alimente ton boîtier, le gâteau, le HDMI ne pourra pas faire ça. Ah ! Sur ton PC HDMI. Ouais. Fais le mouvement de Elon Musk, ça pourrait peut-être servir. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus stable. On a quand même résolu un truc. Ouais. On a quand même résolu un truc. C'est quand même beaucoup plus stable qu'avant, quoi. Ouais. Tu vois, là, il reconnecte beaucoup plus vite. Donc c'est quand même un truc de soft. Hein. Au moment où on dit ça, il nous fait deux pertes. Ouais. Ouais, très rare. Donc là, on voit bien que c'est pas un problème non plus de veille, parce qu'on voyait, là, vous avez vu la coupure, là, elle était très rapide. Donc c'est pas un problème de veille. Ouais. Débranche et rebranche. Merci beaucoup pour le conseil. C'est à peu près 600 fois que je le fais depuis ces derniers mois. Merci beaucoup. Je crois que c'est pas un truc de connectique, c'est plus un problème d'alimentation ou de. Je vais voir s'il y a un USB 3 derrière bleu, mais je crois que j'en ai pas. Bougez pas. Non, pas sur ce PC qui est un petit peu limité. Bon, écoutez, on vient de comprendre que c'est pas le boîtier quand même. C'est intéressant. Parce que, en fait, le même problème réapparaît, mais un peu plus stable. Donc, c'est autre chose. Donc là, on a changé un câble. Ça n'a pas changé non plus. Il y a un autre câble que j'ai pas changé encore, c'est l'autre. Qui fait, lui... Ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est le HDMI. Ouais. C'est le HDMI USB-C. Voilà, c'est peut-être lui. J'ai un HDMI USB-C, donc qui va du boîtier Elgato à la tablette, qui est peut-être à changer. C'est ça qu'il faut que j'essaye. Voilà. Non, les câbles n'étaient pas fournis. Ah, moins qu'il y en ait un dans ce boîtier, dans ce truc-là. Attends, ce serait marrant qu'il y ait un HDMI là. On va voir. Il reste un petit peu de temps là. 58. Ah putain, je vais être à la bourre à mon rendez-vous. Ah non, ça c'est HDMI. Et là? Ah ouais, non. Là, si je fais. Ah oui, mais il me faut un USB-C moi un moment. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Bon, merci en tout cas les amis. Je ferai ça après mon rendez-vous. Tranquillement. Ouais. Mais bah, c'est pour vous donner. Mais est-ce qu'on est d'accord que globalement, on a quand même un peu plus de qualité là, de stabilité. J'ai l'impression quand même. Hein, voilà. Ouais, ça c'est un Apple, ouais. Non, non, mais il est même pas penché celui-là. Ouais, il n'y a pas d'adaptateur là. Ouais. Bon, les amis, je vous abandonne. Merci beaucoup de votre temps, de votre patience. Hop là, ça. Tchouk, je m'en occuperai. Après, je ferai d'autres tests. L'objectif étant de vous apporter dans les prochains jours la meilleure qualité possible et la plus grande stabilité possible pour la revue de presse. Hein, putain, j'en ai des câbles du coup là. Hop. Je vais à ma réunion, à mon petit Teams. On fait un petit raid. On se retrouve ce soir, c'est sûr, pour du Civ 6, du Civ 5, 6, 7, je sais plus. C'est 6 hier qu'on a joué avec Lège. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, voilà, c'est 6. Bon, je pense que je vais avoir besoin de vous, hein, Backseat, parce que c'est quand même compliqué, hein, civilisation. Je pensais que c'était plus simple. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je lance un petit Valo cet après-midi? Est-ce qu'on fait pas un triple stream aujourd'hui? Hein, il y a peut-être un monde où on fait ça, je sais pas, je vais voir. Ou alors je fais du sport, ou voilà, mais. Voilà. Alors, qui est en live? Ok. Ok, plein de gens qu'on aime. Ouais, attends, il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Ok. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps en live, en vrai. Ça fait plaisir. Bah ouais, écoutez, c'est quelqu'un que j'ai déjà raid, mais il y a longtemps, et on est sur de l'artisanat, c'est la petite potière. Let's go ! Voilà. Tout chill, le petit stream du matin, la petite potière. Oh, c'est marrant. Hop là, voilà. Let's go. On va sur la petite potière. C'est de l'artisanat. Tournassage chill, pièce d'élève, puis grosse pièce. Il y a un joli atelier, il y a beaucoup d'applications. Je pense que ça va être, je connais la chaîne, je l'ai déjà raid. Prenez soin de vous. À ce soir pour du Civ, Civilization 6, c'est sûr. Et à cet après-midi, peut-être pour du Valo, on ne sait pas. Mais je vais d'abord bosser sur l'iPad là, pour avoir la meilleure image possible pour vous. Merci encore pour ce matin, ça a été super. Et on se retrouve également demain matin pour la revue de presse. Voilà. À tout à l'heure, merci pour tout, je lance le live, le raid. Oh là là, je suis vieux. À tout à l'heure. Merci encore. Merci pour tous les soutiens. Merci Katsumoto, merci Gulg, merci Fan Ferrari, merci Dalekan, merci Morak, merci Bertoshi, merci Ayam Novarius. Vous êtes formidables. Let's go!